Oh oui, on en jase sur les ondes de Boulevard 102. Votre émission du midi, il est midi une exactement. On est super heureux d'être avec vous en cette journée d'Halloween pluvieuse. Mais c'est pas grave, voyons, on sort dehors à soir puis on va chercher des bonbons.
Moi, je suis prête, là. J'ai des bonbons et des bonbons et des bonbons. Ah, donc
nous autres aussi, la maison est décorée.
Je croise les doigts.
Ah, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt.
C'est une de mes journées préférées.
Hey, c'est tellement le fun, l'Halloween. Hein?
Tu te lèves des fois, puis bon, pour plein de raisons, t'as plein de nouvelles qui sont pas nécessairement les meilleures. Okay?
Ouais.
Fait que là, ton début de journée est un peu étrange. Puis là, t'arrives le 31 octobre à job, puis t'as deux trolleys de petits déguisés en n'importe quoi d'Halloween. Ça change ta vibe, là.
Ben
ça
oui.
Ça change complètement
ta vibe. Ça change la vibe au bout. En plus, moi, je vais vivre un party d'Halloween chez nous aujourd'hui. Val est une femme extraordinaire. Elle organise un party d'Halloween pour nous autres.
Adulte et, j'ai entendu, ado, mais
adulte et ado. Oh, oui, les ados vont être là. Alors, donc, ça va être vraiment, vraiment, vraiment plaisant. Puis...
C'est encore bien populaire, les parties d'Halloween? 88-971-101,
hey, bonne question, ça. Ouais, en faites-vous des parties d'Halloween?
Moi, c'est vendredi, là. C'est pas un mercredi. D'après moi, ça...
D'après moi, ça va
pas bien.
Disons que ça crash à la maison aujourd'hui. Donc, les ados et doux avec ses amis vont être là. Évidemment, on va checker un petit peu la série mondiale.
Ben oui,
on
n'a
pas le choix
à la maison
de regarder ça. Mais, et voilà, Richard qui écrit, les bonbons sont juste meilleurs quand t'arrives tout mouillé les pieds. Je les mets, hein.
Et puis, faire le tri quand t'es jeune, là. Ouais. Là, faites-le hein, avec les enfants. Et, semblerait-il qu'il y en a qui se sont amusés à faire des espèces de conneries dans les dernières années, là.
Ouais.
Tout ce qui était légende est devenu un peu réalité. Sauf
ben
que,
oui.
Ça pour dire que... Je me rappelle, c'est mon meilleur souvenir. Mettre tous les chocolats avec les chocolats, mettre tous les jujubes.
Oui.
Puis là, faire des échanges, là.
Oui.
Comme dans le sport, là, avec tes frères ou tes sœurs. Tellement fun. Puis on remercie notre collègue qui
Marina,
a décidé de nous gâter comme des enfants à l'Halloween. On a des petits sacs d'Halloween.
Mais, hey. Merci à Marina. Donc, profitez-en, redevenez des enfants. Il y a votre cœur d'enfant aujourd'hui. Pour cette Halloween, ouvrez la porte, encouragez les jeunes qui vont braver le froid et la pluie, sortez vos plus belles décorations justement pour que les familles sachent dans quel coin aller.
Ça là, ça aussi, ça, on a perdu, à moins que je suis dans un quartier vieillissant.
Mm-hmm.
Moi, je me souviens, jeune, tout était décoré.
Ouais.
C'est-tu parce que la tendance ne s'est pas maintenue?
En effet, moi, je te dirais que c'est la tendance ne s'est pas maintenue. T'es, pour l'avoir vécu avec les enfants, l'Halloween, tu as eu 18 ans, là, donc...
Ouais.
Je te dirais, on dirait que ça marche par secteur. Comme à Charlebourg, je sais que dans le coin de l'avenue Diamant, ces 4-5 rues-là, toutes les maisons sont décorées. Mais là, c'est comme le concours de qui va avoir la meilleure décoration.
C'est quand même le fun.
Écœurant. Avenue Beau-Royal, dans ce coin-là, il y a énormément de maisons décorées. Parce que vois-tu, moi, dans ma rue, là, il y a nous autres et le voisin d'en face qui est décoré.
C'est tout.
C'est tout. Puis c'est une rue pas passante. Fait qu'on est comme, crime, on va-tu avoir des Halloweeners
dans votre quartier?
Non, pas tant que ça.
C'est ça. Je pense qu'à un moment donné aussi, certaines personnes décoraient. Puis ils ont fait, ben là, attends un peu, là, tant qu'à décorer, mettre de l'énergie, acheter des bonbons. Puis qu'il y a trois petits poulets qui passent. Ben peut-être qu'avec le temps, les gens ont décidé de faire autre chose. Mais je sais que Bois-Châtel, il y a des quartiers extrêmement décorés. Puis avant, on passait dans nos rues, dans nos rues près de chez nous. Après ça, il y a eu des mouvements où on cherchait les quartiers qui étaient peut-être un petit peu plus décorés, peut-être justement parce que ça se perdait. Mais moi, c'était pas rentable sur l'avenue Royale, là, Jeff, où j'habitais à l'Ange Gardien. Là, c'est quasiment 5 km entre les maisons.
Ouais,
c'était pas rentable. Là. On faisait 3 heures et on avait fait 10 maisons. Là.
Et il y a l'an passé, c'est une auditeur, une auditrice qui nous écrit, Sainte-Brigitte-de-Laval, quartier du Golfe, 350 sacs, 1h15, plus de bonbons.
Wow!
Ça, c'est
cool!
Tu sais, quand t'as mal dans le bras de donner des bonbons, là. Ah, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool.
Ou t'as pas le temps de te rasseoir à chaque fois que ça sonne.
Hein?
Mais moi, j'ai du fun avec les enfants. Pour vrai, là, j'ose croire et j'espère que ça va passer dans mon petit quartier de Limoilou ce soir.
Ah, moi aussi, j'ai du fun avec les enfants. Je salue leur déguisement. Je vais faire une couple de niaiseries des fois.
Oui.
C'est vraiment, vraiment cool.
Mais ils me font sentir vieille parce que là, ma filleule, mettons, là, a 9-10. Puis ça a l'air qu'elle est déguisée en affaire de K-pop, là. Guerrière de K-pop, là. Je pense que c'est un nouveau film qui est sorti.
Okay.
Puis là, les enfants comme trippés. Mais Colin, guerrière de K-pop, là. Il a fallu que je tape sur Internet pour trouver un peu son costume, pour savoir à quoi m'en tenir pour ça.
Mm-hmm.
Mais ça, c'est à chaque fois que ça cogne à la maison,
ouais,
là. Alors, Louis,
t'es
déguisée en quoi, toi? Puis là, mettons, il me dit, je sais pas moi, Whiskey Lee. Puis là, je suis comme, OK, yes, beau costume. Ah, ça me fait tellement rire. Je suis rendue dans ton genre de spectre. Oui. Je suis rendue vieille.
Oui, d'ailleurs, on en parlait ce matin. Tu sais quoi, le 6-7? C'est un nouveau trend sur TikTok. 6-7. J'ai appris ça dimanche passé. Parce que je parlais et là, mon gars me dit, ouais, 6-7. J'ai dit, comment ça, 6-7?
Ça veut dire quoi, ça?
C'est quand tu hésites entre deux choses. 6-7.
6-7, genre.
Ouais, c'est un nouveau trend.
6 ou 7, mais 6-7.
Ouais,
toi, tu y avais-tu offert quelque chose? Ou...
Ben, je me souviens plus c'était quoi la conversation.
Du lait ou du lait
exact,
au chocolat, 6-7?
Exemple, tu sais, le dilemme, ça devait être je vais-tu m'entraîner avant vos games de hockey? Je vais-tu avoir le temps ou j'y vais pas? T'sais.
Puis il t'a regardé et dit 6-7.
Puis là, Edou me dit, ah oui, 6-7. 6-7.
Hey, moi, quand les parents commencent à nous dire des affaires, ben il y a eu les influenceurs là, européens ça. Où tu avais des Wesh, des Gilles Laflemme. Oui. Là, on est pas mal rendu à tous se comprendre.
Down, exactement. T'sais, là, on comprend tout ça, mais là...
Il y a d'autres niveaux qui apparaissent, là. 6-7.
Toujours, je me garde à jour. 6-7. Alors là, ils étaient dans le minivan, là, les amis Edou avec Elliot et Edou, puis on s'en allait au hockey. Là, puis là, ouais, 6-7. Ah ouais, 6-7. J'entends juste des 6-7. Hey, tu peux-tu juste me dire, ouais, j'aurais le choix entre ça puis ça? Non. Hey, 6-7, guys, c'est à job. Hein? Ben, qu'est-ce que ça veut dire, 6-7, guys, c'est à job? Ah, oh, ben, je me mets-tu disponible samedi ou non? OK, tu peux juste me le dire comme ça, s'il vous plaît? Non, 6-7.
Quelqu'un qui dit, quand Jeff t'a dit ça, on a entendu littéralement le cerveau de Pascal faire 6-7.
Ah oui, clairement.
Quelqu'un qui dit, ça vient d'une chanson rap américaine. Ouais. Si quelqu'un peut nous trouver le titre, on est preneur.
C'est un trend TikTok, là,
puis,
présentement. Là.
Beaucoup de gens qui commentent là, l'Halloween aussi, qui continuent. Bois-Châtel, on passe 300 sacs de bonbons en plus. Ce soir, on donne du whisky et des bonbons de bacon aux parents accompagnateurs. Mm-hmm. Ça, c'est cute, pareil, de gâter les parents qui passent aux maisons.
Je suis content, quelqu'un qui dit, tu viens d'apprendre ce que ça veut dire, 6-7. Bon. Oui, parce qu'il n'y a rien de pire que tes enfants parlent puis tu comprends pas.
Mais non. Hey, mais le costume, que... là, la guerrière de la K-pop, ouais. Là, si
c'est pas plus compréhensible. Tu sais. Hey, tes amis, d'où viennent-tu au party d'Halloween chez nous en soirée 6-7? OK, ouais, mais ils viennent-tu ou ils viennent pas? Ben, 6-7, ils vont me le dire.
Alimentez-nous, là. On est vendredi, là, 88-971-102.
Là, tu te dis, ouais, ça peut pas être. Ça pourrait être simple, oui ou non, mais c'est 6-7 parce qu'ils sont en train de réfléchir. 6-7, OK.
Merci, bonsoir.
Ah, c'est ça, que veux-tu, c'est comme ça. Pascal, il y a une place où il va avoir du fun à soir, puis c'est au Rogers Center. Here struggles. Barger sends a towering drive, right center field, kiss it goodbye! Oh là là, sixième match de la série. Les Jays sont en avance 3-2. La dernière fois qu'il y a eu un sixième match de série mondiale à Toronto, c'est en 1993.
Wow.
Et les Jays avaient gagné de façon dramatique avec un circuit de Joe Carter après deux retraits en fin de neuvième manche.
OK, fait qu'à la toute fin. Là.
Ouais, ouais. Hey, la balle, là, la clôture, là, c'est l'écran.
Jeff s'anime. Ben, profitez de ce moment-là.
La balle était passée. De même, là, juste sur le centre.
OK, sur la ligne.
Ouf, ah oui, puis là, Joe Carter avait sauté partout. C'est un moment d'anthologie.
Je sais pas si on va avoir ça ce soir à
20h. C'est ça.
Mais sais-tu qui se fait de l'argent pas à peu près ce temps-ci, au-delà de ceux qui veulent des billets du côté du stade? Là.
Rappelle-nous donc le prix des billets.
150 000 pour deux billets à côté dans une section un peu reclue du stade là, hier. Et on disait que c'était une super offre. Là. Merci, on va passer.
Oui, c'est vrai, c'était une offre. Ouais, comment qu'il appelait ça donc, sur le site de revente? Une
t'en viens avec le terme
ouais,
exact.
C'est ça. Là, c'est, parce qu'une offre, elle n'a pas manqué.
Exceptionnelle ou extraordinaire.
Offre exceptionnelle, et voilà.
Fantastique. Offre fantastique.
Hey,
mais je vais aller me fantastiquer ailleurs. Ça
c'est
vous
fantastique.
Pas.
Tu vas dépenser 150 000 pour aller voir les Jays en série mondiale.
T'espères-tu qu'ils gagnent? Là? Mais tu sais, il y en a qui aiment tellement ça qu'ils sont contents pareil. Ça pour dire que dans les bars sportifs, là, Jeff, là, la palette roule cette année, mais comme pas à peu près.
Dis-toi.
Puis dans cette ajout-là du baseball, qui habituellement ne fait pas autant d'amateurs. Là, on s'entend, il y a quelque chose de, oui, politique, très sportif. Et tout le monde est un peu appelé à triper en ce moment. C'est historique aussi.
Ben oui.
C'est plein tellement que hier, dans un bar sportif de la région de Québec, ça a laissé place aux tripeux de football. Mais dès ce soir, c'est encore plein à craquer.
Ah, ben,
il roule.
Ben
les gens cherchent cette ambiance-là.
Oui, gros défi devant les Jays parce que c'est le lanceur japonais. Yoshinobu Yamamoto qui va être au monticule pour les Dodgers. Yamamoto, depuis le début des séries, n'a accordé seulement que 5 points en 4 départs.
OK, ils mettent leur meilleur.
Ouais, il a fait un match complet contre les Jays dans le deuxième match Ça a été un match complet dans une victoire de 5-1. Par contre, Yamamoto va affronter Kevin Gausman, le lanceur des Jays. Et Kevin Gausman, c'est une belle histoire parce que ça a été un des premiers comme joueur d'impact. C'était un des meilleurs lanceurs du baseball majeur à la sortie de l'année 2021. A signé un contrat à long terme avec les Jays. À dire, moi, les Jays, ils ont Vladimir Guerrero Jr., ils ont Bo Bichette, ils ont plein de jeunes dans leur équipe. Mais on va signer là, on va aller à gagner à Série Mondiale.
Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que habituellement, les joueurs vont pas signer à long
terme. Il
n'y
avait pas beaucoup de joueurs autonomes qui signaient à Toronto en raison que c'est au Canada. Les impôts, le voyage, etc. Et puis lui, il est parti de San Francisco en Californie pour dire, ouais, sais-tu quoi? Moi, je m'en vais à Toronto. Je crois en cette équipe-là.
Est-ce qu'ils sont payés en dollars canadiens? Parce que dans le documentaire,
non, payés en
des
dollars
expos américains. Donc, puisque là, tout le monde est rendu un peu franchisé.
Exactement.
Dans le même contexte. OK, ça s'est ajusté peut-être avec le temps?
Oui, ça s'est... Oui, peut-être qu'à l'époque des expos, c'était payé en dollars canadiens, mais là, maintenant, tous les ligues sportives, c'est en dollars américains.
Question de ne pas faire mourir une autre franchise.
Hein? T'as tout compris. Mais Kevin Gausman a des excellentes séries également. 2,55 de moyenne depuis le début des séries. Et puis, il y a 18 retours au bâton, 24 matchs. Donc, ce soir, ça va être un match défensif. Ça va être un duel de lanceurs où chaque coup sûr va être important.
Wow!
Ça va vraiment, vraiment être exceptionnel. Et... tu sais comment j'aime Val. Tu sais comment,
l'adore.
Tu sais comment Val est la femme de ma vie. Et là, hier, elle me dit, « Ouais, c'est le party d'Halloween. Qu'est-ce qu'on fait avec les Jays? » J'ai dit, « Chérie, je mets rarement mon pied à terre. Mais à 8 heures, la TV s'ouvre. Pas le choix. »
OK, ben,
peut pas manquer ça.
En accompagnement
du party d'Halloween.
Des festivités. Est-ce que c'est opposé à ça?
Non, du tout, elle a dû bien comprendre pourquoi tu mettais vraiment de l'emphase pour Edouard et ses amis qui viennent. C'est sûr que ça, tu voulais.
Peut-être ça pour vrai, ta stratégie.
Non, honnêtement, j'ai le goût de vivre ce party d'Halloween avec Edou et leur chum, ils sont tellement le fun.
Mais ça va être pour vrai une super soirée. Là. T'es sûr que tu manqueras pas d'ambiance.
Non, ça va
être peut que la musique soit coupée un moment, là, parce que vous allez crier par-dessus.
Exactement.
Sauf qu'il y a quelque chose, je pense, qui va ajouter à la soirée.
Ah oui, il y a un couple d'amis qui est là qui adore faire des jeux de société, nous autres aussi. Fait que,
tout le monde va faire sa petite affaire
je me vois,
en commun.
Je me vois avec mon petit rum and coke, les Jays à TV. Moi, c'est à table en train de faire des jeux de société, mais toujours pour avoir l'œil sur la télévision avec Edou et ses amis qui vont dire « Papa, il y a un gros troisième but, viens voir ça! » Ça va être écœurant, ça va être une soirée parfaite.
Fait que t'as pas eu à choisir entre ta blonde et le sport, c'est pas vrai ça.
Non, c'est ça, j'ai pas eu à choisir entre ça. Quoique Marceau, ce matin, c'est sur les réseaux sociaux de Boulevard, m'a posé la question. Pour ce soir, qui tu choisis, ta blonde ou le sport? Allez voir mon hésitation.
Mais c'est honnête.
Oh, c'est honnête.
C'est pour un soir seulement. Si on t'avait demandé de choisir le sport ou ta blonde pour la vie, t'aurais choisi ta blonde.
C'est clair.
Sans hésitation, Jeff.
Mais là, c'est parce que c'est... Mais là, c'est parce que c'est historique. Ça fait 32 ans.
Ça doit être juste parce que c'est historique.
Que la Série mondiale a été au Canada. Et là, je le rappelle, on est dans un air encore où Donald Trump vient de nous couper les
vives.
Il a dit plus de négociation, je vous rajoute 10% de tarif. Ben là, à soir, c'est pas juste un match de baseball. C'est un match contre Donald Trump.
C'est Donald Trump
contre Trump. Parlant de Donald Trump, Pascal Sévic, qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles là, avant justement qu'on passe à Catherine Lamontagne qui va venir nous voir. On va faire le portrait de Jacques Delisle. En passant, là, je me suis dit hier, faut qu'on fasse plus de portraits et d'entrevues historiques comme ça parce qu'il y a tellement eu des réactions positives sur les 30 ans du référendum. Là, Catherine Lamontagne va nous arriver avec un sujet. Écoute, tout le monde à Québec a réagi là-dessus sur Jacques Delisle qui a clamé son innocence pendant quoi? 13 ans avant de plaider coupable, ça n'avait comme aucun sens. Et alors, Catherine Lamontagne va être avec nous pour nous parler de ce dossier-là. On va avoir une excellente table ronde pour les élections municipales avec Émilie Pelletier qui couvre la campagne électorale de façon phénoménale pour Le Soleil, Stéphanie Martin qui fait la même job exceptionnelle pour le Journal de Québec et notre chroniqueur politique Irénée Rutema. Donc ça, c'est à 13h. Puis on va finir l'émission à 13h30 avec Lambert Drainville qui a eu une entrevue exclusive avec Christian Dubé.
Très intéressant. C'est une de mes meilleures, je pense, envies d'émission cette semaine, puis c'est très difficile à choisir. Honnêtement, aujourd'hui, on a décidé de vous regrouper tout ça.
Yes.
Super travail, puis on est vraiment content de vous le présenter. On n'a pas été 6-7...
Non, c'est ça.
Dans notre façon de voir les choses.
6-7,
mais bon. J'essaie de le mettre en français.
Fait que, avec quelle nouvelle tu veux commencer, parce qu'elle s'est 6-7?
Ben, tu parlais de Donald Trump, alors je me suis dirigée vers Donald Trump. Aux États-Unis, ça brasse pas mal. On est allé de l'avant avec le fait de limiter l'accueil des réfugiés à 7 050 contre 100 000 par année. Vous comprendrez que c'est un énorme changement de barème, là. passer de 100 000 à 7 500 le nombre de personnes qui vont se voir accorder le statut de réfugié cette année. Sous l'ère de l'ancien président démocrate Biden, ben c'est ça, on allait jusqu'à 100 000 par année. Il y avait quand même un nombre limite, c'est pas nouveau, mais c'est un durcissement assuré de l'immigration. Il sévit aussi envers tout ce qui se passe dans les tests américains d'armes, en fait, d'armes nucléaires. Donc, président américain qui a déclaré avoir donné au Pentagone de reprendre immédiatement les tests d'armes nucléaires après une interruption de 3 décennies. Là, on ramène ça dans le dossier. C'est sorti hier, mais quand même, ça se fait encore beaucoup dans l'actualité aujourd'hui. Parallèlement à ça, petite parenthèse, on est vendredi, on aime ça mixer l'actualité avec le divertissement.
Ben
avec,
oui.
Bon, il y a un excellent film en ce moment sur Netflix qui est très accessible. Je vais vous dire que si vous n'aimez pas les films de guerre habituellement, là, on est plus dans comment ça fonctionne avant une peut-être guerre. Puis j'ai jasé avec Véro Bergeron, je l'ai entendu parler de ce film-là, puis je me dis OK, c'est peut-être quelque chose qui va m'intéresser. House of Dynamite. Dynamite comme la dynamite.
Oui.
En fait, on voit sur 3 plans une décision que doit prendre un président, dans ce cas-ci, c'est le président américain, sur une façon de faire parce que les États-Unis sont visés par un missile. On n'est pas trop capable de savoir qui l'a envoyé. On cherche à comprendre d'où il provient. Mais assurément, il va détruire Chicago et on a un genre de 19 minutes pour réagir. Et là, tu vois sous 3 spectres la façon dont c'est dirigé. Tu vois, bon, le président, mais c'est à la toute fin. Mm-hmm. Comment lui va le vivre, où il est à ce moment-là. Et il y a également des portions où on voit son équipe de la défense et on voit aussi ceux qui sont supposés repérer les missiles et les détruire avant qu'ils touchent,
oui.
Mais ça n'a pas fonctionné. En gros, je ne vous vole pas de punch, mais je trouve ça extrêmement intéressant. On est sur 3 pans. On commence avec un pan, on continue dans le 2e et on finit avec le 3e.
C'est clair, j'écoute ça.
En fin de semaine, si vous cherchez un film, ouais. Netflix, House of Dynamite, puis avec les nouvelles qu'on a avec Trump, je fais le parallèle.
Ben oui.
Parce qu'on travaille beaucoup sur le nucléaire. On est allé détruire des bateaux
au Venezuela.
Qu'on dit de cargaison de narcotrafiquants. Mais ça reste que l'ère du nucléaire revient dans l'actualité, même si on ne l'a pas vraiment cru aussi rapidement que ça.
Là. Oui, puis ce matin, Marceau, le matin, c'est disponible sur blvd.fm. Luc Laliberté nous parlait aussi de la montée du nucléaire chez les Chinois.
Mm-hmm.
Donc, puis là, on sait que la Corée du Nord aussi a de l'arme nucléaire. Alors, ça fait en sorte que des alliés aux États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, ils se sentent coincés en tabarouette entre le nucléaire de la Chine et de la Corée du Nord.
C'est assez particulier. Je viens d'avoir comme note comme quoi il y a 4 endroits où on enseigne la médecine, donc des étudiants des 4 facultés de médecine du Québec qui se donnent un mandat de grève. C'est sorti dans les dernières minutes, comme quoi on est encore dans le mécontentement de l'adoption de la loi 2 du gouvernement Legault, des étudiants de 4 facultés qui ont dit non, nous, c'est vraiment pas quelque chose dans lequel on est en accord. Donc, on n'a pas l'intention de déclencher une grève, mais... parce qu'on a peur des représailles prévues par la loi du ministre de la Santé, sauf qu'on la regarde, cette possibilité, avec énormément d'attention. Donc, c'est l'Université de Montréal de Sherbrooke, l'Université McGill et l'Université Laval.
Oui, et on écoute d'ailleurs Nicolas Dossi, président des étudiants en médecine à l'Université de Montréal.
La première chose à dire, c'est que depuis le début, on est cohérent sur l'aspect qu'on est du côté des médecins. Mais la situation a complètement changé. Il y a quelques semaines, on était en train de revendiquer un projet de loi sur lequel on avait quelques amendements à faire, puis on demandait au gouvernement de négocier avec les médecins pour qu'on puisse retourner à l'école. Les fédérations ont même proposé un arbitrage non exécutoire qui aurait été totalement objectif, ce que le gouvernement a refusé et a imposé la loi 2 au bâillon. Par contre, en ce moment-là, on n'est plus dans les technicalités. On parle d'une loi de 113 pages qui a été passée au bâillon et qui met en péril le système médical au complet. Donc, les étudiants sont inquiets parce que c'est une carrière entière qu'ils vont entreprendre dans le système de santé québécois. Et ils ont peur pour la qualité des relations avec les patients. Et donc, ils considèrent qu'en ce moment, c'est un sacrifice qui est nécessaire pour le système de santé de décaler leur formation.
Les étudiants sont inquiets, Pascal, et je les comprends très bien, parce qu'il faut revenir au printemps passé où on a fait passer une loi qui oblige les étudiants qui sortent en médecine à travailler au moins 5 ans dans le public au Québec. Donc là, eux, ils ont l'obligation, compte tenu que, entre guillemets, on leur paye leurs études parce que les études sont moins chères au Québec, ils ont l'obligation d'aller redonner au public pendant 5 ans, mais là, ils se font pitcher une loi matraque par la tête. Alors, ils disent, ça va être quoi mon climat de travail? Ça va être quoi? Comment je vais pouvoir bien exercer ma pratique dans ces conditions-là? Alors, je les comprends vraiment d'être inquiet.
Oui, puis il n'y a pas beaucoup d'exceptions, il n'y a pas beaucoup de nuances, il n'y a pas beaucoup du cas par cas. Peut-être parce qu'ils ne voulaient pas se badrer là-dedans, le gouvernement caquiste, mais je pense à des médecins qui ont exercé au public, par exemple, pendant X nombre d'années et qui ont décidé de s'ouvrir une clinique peut-être un petit peu plus privée, qui allie soins médico-esthétiques ou autres, mais qui encore propose de l'aide. Mais mettons, tu viens d'investir là-dedans ou tu as investi dans les dernières années, hey, c'est de l'argent, puis pas à peu près.
Du
jour au lendemain, on te dit, ben non, on va t'ordonner de retourner
exactement.
Au public. Là. Tout ce que tu perds comme investissement, ça se peut que tu frôles la faillite. Il y a des cas qu'on ne connaît même pas qui commencent à faire surface.
Non, parce que sachez que c'est pas tous les étudiants qui sont en médecine à l'heure actuelle qui proviennent d'une famille riche.
Exact.
Il y en a qui proviennent de milieux défavorisés, mais qui ont persévéré à l'école, qui sont allés chercher une méchante cotère.
Avec des frais scolaires, je t'en parlais cette semaine. Mais tu sais ça, je pense que la semaine prochaine, après les élections municipales, on va pouvoir s'en jaser, puis il y a encore plus de cas, mais on n'a pas fini d'en parler.
Non, c'est ça. Alors, je les comprends vraiment d'être inquiet. Puis ça revient au beau débat que tu as eu avec Lambert Drainville sur la question cette semaine, que j'ai bien aimé, où la CAQ est pressée d'aller chercher des résultats politiques et à cause de ça, ils font une loi Bayon. Mais un projet de loi en démocratie, ça passe par une commission parlementaire.
C'était mon point.
Ça se débat. Et moi, j'en démords pas. C'est ce que la CAQ aurait dû faire. Le dossier est trop important pour le faire de façon unilatérale comme ils l'ont fait. Fait que autant j'étais derrière la CAQ qui disait qu'il faut changer le mode de rémunération des médecins. Très d'accord avec ça. Mais autant je suis rendu du bord des médecins parce que ça n'a pas d'allure qu'on leur impose ça.
Mais en fait, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on est toujours, encore une fois, dans ce qu'on déplore, soit les extrêmes. Pourquoi
t'as
on se permet pas de mieux le faire? Puis au bout du compte, je me demande qui n'a pas levé la main ou qui n'a pas été écouté dans le fait de dire ça se peut-tu qu'en allant trop vite, on perde toute la possibilité aussi de se faire réélire parce qu'il n'y aura aucune façon de gagner des points dans ce qu'on est en train de faire?
Excellente chronique de Yasmine Abdel Fadel là-dessus, justement, dans les médias de Québécois, Journal de Québec, Journal de Montréal, où, aujourd'hui, où elle dit coudonc, il est où finalement le gain de François Legault d'avoir fait ça aux médecins? La grogne est pognée partout, puis Lionel Carman a démissionné. Elle dit, c'est juste enfoncé encore plus creux.
Tellement qu'on en parlait au début de la semaine, on se questionnait là-dessus. Ouais. Toi, moi, c'est pour ça que j'ai eu un petit débat avec Lambert en disant, là, c'est
juste était très sain
politique.
En passant. Il
était
parfait.
Vraiment intéressant. Ben oui. Puis je cherchais, était où l'avantage d'eux, puis je me dis, ben si c'est vraiment qu'on nous l'explique mal, parfait. Ouais. Expliquez-le-nous. Mais l'affaire, c'est que celui qui était au sein du Conseil des ministres, le seul médecin dans cette gang-là, n'était pas en accord avec le projet au point où il a choisi sa famille, qui était loin d'être en accord.
Fait que là, il n'y a plus de médecin dans la CAQ.
Parce que lui aurait pu, si jamais il aurait cru, et que sa famille y aurait cru, être un porte-étendard des explications, puis de le mettre sur ses épaules en disant, regardez, là, je comprends en ce moment, là, tout le monde il y a le feu aux poudres, mais sachez qu'effectivement, mon collègue, M. Dubé, va nous permettre d'avoir plus d'informations et on va comprendre et on va adhérer au projet beaucoup plus que vous le pensez. Et il est parti.
Il
a quitté le bateau.
C'est ça, il a quitté le bateau. Un auditeur qui nous écrit justement, « Enfin, la population et les étudiants en médecine vont se réveiller. J'ai encore espoir quand j'entends un représentant des étudiants s'exprimer ainsi. » En effet, chapeau à Nicolas Dossi, très cartésien dans son approche. Bon, vous allez dire, ça fait très médecin aussi, très analytique, mais... Pas d'émotion, très cartésien. Il explique clairement pourquoi les étudiants se sont donné un vote de grève et on ne peut pas être en désaccord quand on l'écoute.
C'est difficile.
Très
difficile de l'être.
Oui.
Je vais te parler d'une nouvelle. Dans Lobinière, il y a une femme qui a été atteinte par 6 projectiles. Elle était dans son lit.
Oui.
Et elle estime avoir survécu parce que son chien est intervenu. Donc, histoire tragique, histoire très belle en même temps, mais l'animal, il serait décédé en la défendant. Elle dit sans lui, je ne suis pas là pour raconter mon histoire. On l'a prénommée Sophie, c'est un nom fictif. Elle croit avoir été victime d'une erreur sur la personne le 22 octobre dernier, alors tout juste il y a quelques jours. Il y a plusieurs suspects qui ont tiré des coups de feu dans son logement. Ça, c'est à Dosquet. Alors, hypothèse qui n'est pas confirmé par la Sûreté du Québec pour le moment, mais il y a 2 personnes qui ont été arrêtées dans le dossier. L'enquête est en cours. Plusieurs détails sont encore nébuleux. Mais le soir de l'agression, elle, Sophie, fictif, se couche dans son lit. Elle est avec son conjoint pour la nuit, puis sa fille de 8 ans est endormie dans une autre chambre.
Oh,
imaginez, là. T'sais, déjà là, c'est trop.
Ouf.
Vers 23h, c'est que là, les suspects entrent dans la chambre.
Hey, okay. Imagine.
Puis il y a un homme qui a braqué une arme sur son conjoint et il a demandé de se coucher par terre. Puis ensuite, ils se sont mis à tirer vers elle. C'est là que le chien husky a sauté sur l'homme qui tirait dessus, selon son histoire. L'agresseur a fini par tuer l'animal avec une balle. Puis il y a le deuxième chien de Sophie qui aurait mordu un autre suspect et il a reçu une balle à l'épaule droite. Il n'a pas succombé à ses blessures. Mais pendant ce temps-là, l'agresseur est allé chercher le bâton. Il essayait de frapper Sophie à plusieurs endroits, jambes, hanches, tête. Et là, elle a fait semblant de mourir, selon son raconté. Puis les agresseurs auraient ensuite quitté les lieux. Comme quoi, comme si les chiens avaient eu un instinct de protection là, pour elle, comme un geste héroïque. Mais elle a peur quand même que les agresseurs retentissent à nouveau chez elle. Elle est super traumatisée. Et l'enquête est toujours en cours. Mais c'est quoi cette histoire-là, encore une fois?
Ça n'a aucun sens. Et ça fait beaucoup d'erreurs sur la personne.
Énormément d'erreurs sur la personne. Puis on en ajoute une aujourd'hui dans un dossier parce qu'il y a eu comparution. En fait, le Hells Mathieu Pelletier, qui est connu, son père est connu. Donc, tu sais, c'est comme une histoire de famille dans le crime organisé. Lui a été formellement accusé de meurtre et de complot pour meurtre. Arrêté par les policiers à Toronto, il s'en allait vers un autre horizon, quitter le pays. Et finalement, il était sous filature, donc on a été capable de l'arrêter avant à l'aéroport Pearson. Chose étant, lui a été accusé du meurtre et de complot pour meurtre en lien avec la mort de Jennifer Morin. Ça s'est fait ce matin. La femme avait été retrouvée morte, rappelez-vous, en décembre 2024 dans son logement. Puis il y a eu une enquête et ça a démontré effectivement que celui qui était visé initialement, c'est Jeffrey Morin, son fils. Et c'est elle qui a été tuée. Donc, c'est un membre en règle des Hells Angels du chapitre de Québec. Et également, c'est un des grands affrontements connu aussi, Hells Angels contre la Blood Family Mafia, mais ce gars-là était, d'après certaines sources, très en guerre avec Dave Picturmel directement. Donc, tu vois que c'était une grande tête des Hells Angels.
Exactement. Chapeau, justement, aux policiers qui font un excellent travail. Je reviens deux secondes sur les médecins. Excellent texto qui est rentré. Ma cousine a été en médecine. Sa mère est malade, sclérose en plaques et son père dans la classe moyenne et elle est endettée pour ses années à l'université.
C'est ça?
Ce n'est pas gratuit.
C'est sûr qu'on a un cursus scolaire qui nous permet que ce soit moins cher, mais ils investissent énormément. Puis les jeunes, effectivement, qui n'ont pas nécessairement eu l'aide financière des parents dans ce cas-ci, je veux dire, ont des dettes pour plusieurs années ensuite. Là.
Exactement. Une petite dernière pour la route?
Oui, on peut peut-être finir avec l'Université Laval. En fait, on se lance dans l'immobilier pour renforcer l'autonomie financière. Donc, des terrains non construits du campus qui sont dans la mire de la direction pour une future expansion de parc immobilier. On cherchait des solutions. On pense que ça en sera une. Donc, on entend en effet développer deux quartiers universitaires, un à prédominance résidentielle ou sur l'avenue Mira, le long du chemin des Quatre Bourgeois aussi. Donc, on mène en ce moment là, un sondage auprès de la population jusqu'à la mi-novembre. On apprend que l'établissement envisage de développer ce quartier-là parce qu'on a besoin de piliers stratégiques, en fait, pour le financement. Ça reste une stratégie, mais c'est sûr que les gens sont un peu surpris de ça.
Ouais.
Mais c'est quand même imbriqué dans l'institution actuellement. Là, ces terrains-là appartiennent. Alors voilà, comment est-ce qu'on va réussir à s'en sortir pour avoir une autonomie financière à moyen long terme?
Mais dans la crise de logement actuelle, si on est capable de donner des logements, mais des logements abordables quand même là, aux étudiants, là, parce que les nouvelles résidences, ça, c'était très cher. Mm-hmm. J'oublie le chiffre, mais de mémoire, c'est pas loin d'un 1 300 $ par mois, là, ce qui est très cher pour la clientèle étudiante. On a une excellente blague qui est rentrée par texto. Ben, c'est un fait vécu qui est très drôle. Lol, maman de deux ados ici, il faut dire qu'avec une certaine tonalité 6-7. Comme joke, nous avons dû choisir un numéro de cellulaire pour mon gars et nous avons choisi un numéro finissant par 6-7. Sa réaction fut mémorable. Mes ados m'ont aussi dit que quand les parents commencent à utiliser leurs expressions, c'est le temps de la changer. Fait que peut-être que 6-7, je l'aurai pu la semaine prochaine si je le dis beaucoup en fin de semaine à mes ados.
Ben, ça peut être une stratégie, Jeff, mais honnêtement, si tu commences à me faire des affaires de même, là, puis en onde en plus, c'est peut-être moi aussi qui va décrocher. Laissons ça aux jeunes.
Clairement. Merci beaucoup, Pascal, pour ce tour d'horizon. Pascal, t'aurais-tu mis demain dans les filets de Jacob Dobesch ou Samuel Motembeau?
Seigneur,
pour une bonne question,
oui. Oui, en tant qu'experte, je te dirais 6-7.
Bon, Samuel Motembeau, c'est une bonne réponse en passant. Martin Saint-Louis a tranché. Ça sera Samuel Montembeau qui a un mauvais début de saison avec le Canadien de Montréal. Il a dit « Montembeau se doit de garder les filets. On se doit de lui redonner confiance. » Il a tranché dès hier pour que les journalistes arrêtent
confiance
de dire
« Confiance ou de la pression. »«
Sudobèche ou Montembeau. Okay. Qu'est-ce qu'on fait avec nos goalers? » Il dit « Nos goalers vont gauler toute l'année. » Puis arrêtez de me poser des questions là-dessus. Fait qu'il était un brin fâché, Martin Saint-Louis, hier.
Montembeau, ce sera.
T'es d'accord avec ça?
Ah oui, oui, oui.
Ouais. Moi, je suis certain que t'es bien plus d'accord avec le fait que c'est Catherine Lamontagne qui suit après
tellement
cette courte pause.
Elle est arrivée à s'en venir en studio. Branchez-vous sur Twitch, twitch.tv/ public
DVD. Exactement. On refait justement le portrait de cette histoire invraisemblable. Jacques Delisle, qui a assassiné sa femme en 2009, mais qui a clamé son innocence pendant une quinzaine d'années avant finalement de plaider coupable à une accusation d'homicide involontaire. Donc, on fait le tour de cette histoire marquante pour la justice à Québec immédiatement après cette courte pause. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 101. Oh. As-tu peur, Pascal CV?
Surprise, par exemple. C'est qui s'est amusé à nous faire ça? En tout cas, merci, c'est divertissant.
Ben oui, c'est divertissant. C'est super, super drôle. Hey, Pascal, avant qu'on passe à notre invité avec qui on voulait tellement jaser, Catherine Lamontagne, vous pouvez venir nous rejoindre sur twitch.tv/BLVD/FM. Mais rappelle-nous donc, c'est quoi donc la meilleure façon pour nous écouter, Pascal CV, à part la radio là, dans ton
Très
char?
Facile. L'application en fait que tu as dans ta poche sur ton cell à n'importe quel moment, partout où tu te trouves dans le monde, ça fonctionne. Je l'ai testé moi-même de l'autre bord de l'Afrique. Là. Mais chose certaine, application BLVD dans ton cellulaire. Sinon, sur les haut-parleurs intelligents à la maison, c'est le goût d'appeler ta radio, tiens. Tu es en train de faire à manger à tes enfants le matin, tu fais je ne sais pas quoi, tu donnes des bonbons ce soir, puis tu dis j'écouterais bien, moi, ce qui se passe à Boulevard 102.1. BLVD 102.1.
Nice.
C'est la façon de le dire. Sinon, on se retrouve aux États-Unis.
Et voilà.
À pas de voir, mais...
Puis tant qu'à ça, profitez-en donc pour vous brancher à ces endroits-là. Dimanche soir, 2
Dimanche
novembre.
Soir. Soirée électorale, mon Jean-François Fortin, okay, ça te dit quelque chose?
Hey, ça me dit de quoi? Je vais être à la même place que je suis là présentement. Oui. Toi, Pascal, tu vas aller courir les rassemblements, dont celui du maire Bruno Marchand.
Exact.
Parce qu'il nous a promis une entrevue. Hein.
Ah oui, mais moi, de toute manière, quand tu lui as dit que ce sera moi qui sera fort probablement son rassemblement, il a sûrement, ah merde!
Exactement.
Mais ça me rappelle que j'étais là, moi, quand il a été élu pour la première fois, parce que peut-être ce sera la deuxième
fois. Dans l'extase de la surprise.
Dans la grande surprise. Marie-Josée Savard, qui avait été la dauphine de Régis Labombe pendant toute la campagne électorale, qui semblait être celle qui allait
qui
être élue.
Qui avait été déclarée gagnante par Radio-Canada.
déclarée gagnante pendant quoi, 10 minutes.
C'est ça.
A fait beaucoup d'écho au rassemblement de Bruno Marchand. On avait vu des visages très tristes et ensuite un changement total d'ambiance.
Ouais. Donc, soirée électorale à compter de 19h30. Pascal Mathias seront sur le terrain. En studio avec moi, Max Antonine et Farnel Morisset. Puis, on va essayer de parler à plein de politiciens aussi. On est diffusé au 99.5 Montréal également. On va avoir bien du plaisir. Pascal, je suis tellement content que tu m'amènes ton amie Catherine Lamontagne aujourd'hui en studio. Salut Catherine, comment ça va?
Salut, ça va bien vous aussi?
Ça va super bien. Je suis content de notre première rencontre. Je te suis depuis longtemps dans le Journal de Québec. Je te suis avec tes livres. Et là, tu viens nous raconter une histoire invraisemblable qui s'est passée ici à Québec en matière de justice, et c'est celle de Jacques Delisle.
Ouais, une histoire invraisemblable, mais très vraie. En
oui,
fin,
c'est
là.
Ça. Ouais. Hein?
C'est une saga judiciaire qui s'est étirée sur 15 ans. Donc, tout le monde a un peu entendu parler de l'affaire Jacques Delisle. Hein? Un ancien juge à la retraite accusé du meurtre prémédité de son épouse. Et il y a eu toutes sortes de revirements, toutes sortes de rebondissements dans cette affaire-là.
Très bon scénario de film, honnêtement, mais au palais de justice.
Mais dans une histoire vraie, ouais. C'est ça qui est fou. Là, ouais. C'est que, on aurait voulu écrire cette histoire-là, puis on se serait dit que c'était un petit peu tiré par les cheveux, disons. Mais c'est arrivé pour vrai. Donc, c'était vraiment important pour moi et pour l'équipe avec qui j'ai travaillé chez Pixcom, avec le réalisateur Simon Sachel. On avait envie de rapper un peu cette histoire-là, d'aller le plus loin possible aussi pour la raconter, notamment parce qu'il demeure, il y a encore des zones d'ombre, en fait, dans cette histoire-là, même encore aujourd'hui.
Personne n'est convaincu réellement de tout ce qui s'est passé. Il y a encore des gens déchirés de ça.
Exactement. Puis Jacques Delisle a clamé son innocence pendant tellement longtemps.
Oui, bien oui, c'est vrai. Et puis au moment, on peut repartir au balbutiement de cette affaire-là. Là. Donc en novembre 2009, quand il appelle le 911 pour dire que sa femme s'est enlevée la vie, bien dès lors, là, c'est traité comme un suicide. Là. Il va expliquer qu'il y avait une petite boîte avec une arme à l'entrée, qu'elle s'est probablement déplacée, qu'elle a fait feu elle-même pendant son absence. Mais c'est un scénario qui rapidement va perdre de sa force et de sa valeur pour toutes sortes de raisons, à commencer par une étrange trace de noir de fumée qu'on retrouve dans la main gauche de Nicole Rainville. Et elle est paralysée de tout le côté droit. Donc, on sait qu'elle ne peut pas utiliser le côté droit pour faire feu. Et dans sa main gauche, il y a une tache de poudre. Et habituellement, quand on manipule une arme de façon conventionnelle, on ne retrouve pas ça au creux de la main. Donc, M. Delisle qui sera arrêté et accusé du meurtre prémédité et qui devient, par le fait même, le premier magistrat au Canada, si ce n'est pas en Occident, à faire face à l'accusation la plus grave qui est prévue au code criminel.
Moi, je me demande, tu sais, c'est certainement une affaire qui a teinté ta carrière, Catherine, qui est loin d'être terminée, mais quand même, c'est 15 ans de couverture, tu étais là depuis le début. Il y a eu beaucoup de changements de comportement auprès du public. Puis toi, tu écrivais constamment là-dessus. Tu peux-tu nous parler un peu de l'ambiance, des courriels que tu recevais quand tu couvrais ça, de la façon dont ça réagissait au sein du public? C'est rare qu'on a cet angle-là.
C'est vrai. Mais en fait, c'est une histoire qui fascinait les gens. Pendant le procès, après le procès, quand Jacques Delisle a eu un nouveau procès après ça en 2021, là, quand le ministre de la Justice a donné un nouveau procès et que M. Delisle a retrouvé sa liberté en attente du deuxième procès, je recevais des courriels de gens, soit qui me donnaient leur opinion, ou quand M. Delisle a retrouvé sa liberté, je l'ai vu au coin de la rue. Ah, je me promenais en poussette avec mon bébé, je l'ai croisé.
Puis t'écrivais en tant que journaliste, là, pas à toi qui t'étais journaliste, là, mais j'ai des informations.
Exact. Et des fois, c'est, en fait, généralement, c'était vraiment banal. Là. Moi, je pense telle affaire. Moi, je l'ai vu à tel endroit. Il fréquente tel... Mais il y avait, vraiment, c'est le mot, là, il y avait une fascination autour de Jacques Delisle et les lecteurs et les gens visiblement sentaient le besoin de partager ce qu'ils ressentaient par rapport à ça.
Jacques Delisle a été reconnu coupable en 2012, si je me souviens bien.
Oui, au terme d'un premier procès devant jury.
Exactement. À l'émission Enquête en 2015, justement, il donne une entrevue et encore là, Jacques Delisle, à ce moment-là, clamait son innocence.
« Faut que vous sachiez que je n'ai pas tué Nicodème. »
Il raconte comment il vit l'humiliation de sa condamnation.
« Même si je n'ai pas commis de crime, mais quand même légalement, je suis un criminel. Est-ce que c'est quelque chose dont des enfants sont fiers que d'avoir un père qui a été reconnu criminellement responsable d'un meurtre au premier degré? Même mes petits-enfants, ils se faisaient... agacé à l'école, ton grand-papa a tué ta grand-maman. Comment voulez-vous supporter ça?
Ça vous affecte encore?
Ah oui. Oui.
Alors qu'on va savoir plus tard que finalement, il a commis l'irréparable. Comment c'était dans le milieu à ce moment-là? Vous parliez-vous? Est-ce que vous aviez votre opinion? Il est coupable, il n'est pas coupable quand tu croisais du monde? T'sais? Parce que veux, veux pas, là, avec une entrevue comme ça en 2015, c'est la sympathie du public qui essaye d'aller chercher.
Mais ce qu'on vient d'entendre en 2015, là, c'était la version de Jacques Delisle. Parce qu'il faut se rappeler qu'au procès en 2012, il n'a pas témoigné pour venir dire ce qui s'était passé au matin fatidique du 12 novembre 2009. Et moi, en 2014, je suis allée le rencontrer en prison. Pendant que la cour d'appel avait refusé de casser le verdict. La Cour suprême avait refusé d'entendre l'affaire. Puis, je suis allée le rencontrer en 2014, puis on avait parlé de plein de choses, sauf du matin du drame, parce qu'on savait qu'il y a quelque chose qui s'en venait. Et il y a quelque chose qui s'en venait, mais c'était ça. C'est la nouvelle version de Jacques Delisle, mais dans cette version-là, M. Delisle, il reconnaît qu'il a menti à sa famille, il reconnaît qu'il a menti aux policiers, il reconnaît qu'il a menti à son avocat, et qu'il a une implication dans le décès de sa femme, parce qu'au procès, c'était « je suis partie faire une commission, je suis revenue, ma femme s'est enlevée la vie », alors que là, il reconnaît avoir fourni l'arme chargée avec laquelle elle se serait enlevée la vie. Donc ça, c'était un énième revirement de situation. Là. C'est c'est ça, là. C'était comme le quatrième rendu là.
Quand on pensait qu'on avait tout vu dans le dossier, après ça, on en apprenait un petit peu plus sur sa vie personnelle. Puis ça, c'est une facette aussi qui a pris beaucoup de place, veut, veut pas, dans la prétention de tous et chacun. On en a jasé. Il avait quelqu'un au-delà de sa femme dans sa vie. Il avait une liaison avec une femme. Il y a eu beaucoup de réactions aussi à ce niveau-là. On se demandait des fois si c'était un petit peu, de nos affaires. Mais dans une cause comme celle-là, Catherine, se l'est le moindrement. Mais
se l'est devenu parce que cette relation extra-conjugale était le mobile de la couronne qui a été évoquée à la couronne au moment du procès. Donc, Jacques Delisle, qui était un jeune retraité en forme encore, là, qui avait toutes ses capacités physiques et intellectuelles, aurait assassiné son épouse, qui, elle, était paralysée de tout le côté droit, qui se remettait d'une fracture de la hanche difficile, pour rejoindre sa maîtresse, qui était sa secrétaire de 20 ans, sa cadette. Donc, c'est devenu un élément important de cette cause-là, selon la théorie de la couronne, en fait. Et c'est la thèse à laquelle le jury a adhéré en 2012 en le déclarant coupable.
Est-ce que ça avait été prouvé qu'il avait cette fameuse maîtresse?
Bien sûr, elle était venue témoigner même dans une espèce de scène un peu, où, sans dire malaisante, là, mais il y avait une tension, on comprend bien, là, cette femme-là qui n'a absolument rien demandé là, et qui s'est retrouvée complètement catapultée dans un processus procès ultra médiatisé où elle devenait un élément important quand même puisqu'elle était l'un des mobiles évoqués par la couronne.
Votre senti, ça demeure un juge, Jacques Delisle, lors du premier procès en 2012, c'est quoi votre senti, la communauté journalistique? Vous dites-tu, ah, il va s'en sortir, c'est un juge? Ou à un moment donné, dans le procès, vous faites... Hey, il est foutu bien raide.
Bien, nous, notre travail, c'est de rapporter.
Hein? Ouais,
donc,
ouais.
Moi, je vais vous dire, je peux parler pour moi, je peux pas parler pour mes collègues. Là. Mais nous, on arrivait le matin, puis c'était un peu une boîte à surprise à chaque fois. Là. On savait pas trop ce qui allait se passer. C'est un procès qui s'est étiré quand même sur 5-6 semaines. Et rapidement, c'est devenu un combat d'experts. Parce que là, on s'entend, il n'y a pas de témoin. Là. La seule personne qui sait ce qui est arrivé ce matin-là, ben, c'est Jacques Delisle. Jacques Delisle n'a pas témoigné. Nicole Rainville, elle est décédée, elle n'est pas là. Donc, tout le monde venait débattre là, de l'angle de tir, de la trajectoire de la balle dans le cerveau, de comment on peut reproduire la tache de noir de fumée.
Mais tu avais tout et son contraire. Des experts qualifiés qui disaient une chose et l'autre disait l'inverse total.
Aux antipodes. Aux antipodes. On avait vraiment d'un côté la couronne là, avec sa thèse du meurtre prémédité et de l'autre côté la défense là, où on présentait Nicole Rainville comme une femme suicidaire, dépressive, qui a passé à l'acte en tenant l'arme à l'envers là, pour obtenir les mêmes marques qu'on retrouvait sur son corps. Donc, c'était vraiment... deux versions complètement contradictoires à l'époque. Et c'est ça, le jury a adhéré à celle de la couronne.
2021, on pense que tout est somme toute assez bouclé. Mais non, on retourne en cour avec l'affaire du juge Jacques Delisle. Comment on prend la nouvelle? Comment est-ce qu'on peut nous ramener dans cette ambiance-là de stupéfaction?
Bien, moi, je m'en souviens très bien parce que j'étais en congé de maternité.
Là, t'as-tu dit « je retourne à
la
job »?
Ah oui, c'est ça que j'ai fait. C'est exactement ça que j'ai fait, mais la nouvelle est tombée par communiqué. Là. C'est le ministre David Lametti qui était ministre fédéral de la Justice à ce moment-là. Il y a un communiqué qui a été mis... Bon, je me demande si c'était sur Twitter, une affaire de même, en disant qu'il leur donnait un nouveau procès parce qu'il avait il était convaincu de la possibilité qu'il y ait une erreur judiciaire. Et c'est tout ce qu'il dit. Hein. Le ministre n'avait pas... il n'a pas l'obligation de s'expliquer. Il ne l'a pas fait. Mais là, c'est l'affaire qui repart. Là, à ce moment-là, Jacques Delisle, ça fait 9 ans qu'il est incarcéré. Ça fait 6 ans qu'il a déposé une demande de révision ministérielle. Tout le monde est sur le qui-vive. Puis ce genre de processus-là, c'est très, très rare qu'au final, là, on ait une mesure de redressement comme un nouveau procès ou un renvoi à la cour d'appel. Généralement, ça meurt de sa belle mort, sauf si on a un élément, là, vraiment, parce qu'il faut un élément nouveau là, qui aurait changé l'issue du procès.
Puis il l'avait pas vraiment, cet élément-là?
Bien, le ministre Lametti a jugé que oui, parce qu'il y a eu un nouveau procès. Maintenant, la couronne a écrit à 2 reprises à Ottawa en disant « pointez-nous l'erreur judiciaire, parce que nous, on la voit pas. » Et c'est 2 lettres qui sont demeurées sans réponse. Mais en 2021, ça change rien que le ministre ordonne une décision, ordonne un nouveau procès. Jacques Delisle sort de prison et là, on revient où on était à 2010, dans le sens qu'on a un juge en attente d'un procès pour le meurtre prémédité de son épouse.
Qui est en liberté.
On l'a remis en liberté. Il a eu droit à revoir un peu tous les avantages qu'une personne qui n'a aucun crime derrière la cravate a dans sa vie.
T'sais. Et il est retourné chez lui, là même où sa femme était décédée en 2009.
Et là, bon, issu du procès, on le connaît quand même, mais chose étant, ça a rebrassé beaucoup de cartes. Ça a tellement brassé de cartes que Jacques Delisle a eu aussi des propos qu'il n'avait jamais eu auparavant. Il est allé jaser aussi avec des gens, mais chose certaine, on se demandait ce qui allait arriver dans tout ça, puis on se demandait si on n'avait pas incarcéré un juge officiellement pour rien pendant tant d'années. Puis ça avait résonné beaucoup dans la population. Puis ce que ça avait amené, je pense que puis la dichotomie sociale est intéressante là-dedans, c'est des gens qui se disaient, officiellement, ils étaient peut-être honnêtes et on ne s'est pas fait jouer d'une personne qui connaissait tellement le droit qu'il s'est fait avoir. Est-ce que tu penses qu'on a donné un genre de free ride à Jacques Delisle à certains moments, pour le meilleur et pour le pire?
Mais c'est un couteau à double tranchant. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, par exemple, que son statut de juge faisait en sorte qu'il avait joui de privilèges, hein, que le ministre avait ordonné un nouveau procès, puis que si ça avait été un plombier, par exemple, là, sans aucune offense pour les plombiers, là, mais si ça avait été quelqu'un de plus standard...
Ça va toujours rester une question suspecte.
C'est jamais sûr, on avait entendu ça auparavant. Là.
Mais d'un autre côté, il y a d'autres personnes qui ont dit, ben, au contraire, son statut de juge lui a nui. Parce qu'on n'a tellement pas voulu... donner l'apparence d'un conflit d'intérêts ou de favoritisme, que justement, ben, ça a pris 9 ans avant qu'il obtienne un semblant de justice pour lui, là, puis qu'il puisse avoir un autre procès. Et il faut dire aussi que cette affaire-là, elle s'est terminée en mars 2024. Jacques Delisle a plaidé coupable. Jacques Delisle, qui clamait son innocence depuis 15 ans, a plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire.
Encore des choses qu'on n'avait jamais entendues.
Il a reconnu avoir fourni l'arme chargée à son épouse avec laquelle elle s'est enlevée la vie, mais... Autre revirement, quand Jacques Delisle plaide coupable, la couronne se lève et dit « Bon, ben nous, l'homicide involontaire, ça nous va. On est d'accord avec ce chef d'accusation-là. » Mais la trame factuelle, ça, on n'approuve pas ça. On n'est pas d'accord avec ça. Nous, la couronne et les policiers, même encore aujourd'hui, continue d'être convaincu que si Jacques Delisle avait eu un second procès, il aurait pu être reconnu coupable de meurtre prémédité à nouveau.
À cet effet-là, justement, on écoute Patrick Michel, directeur des poursuites pénales dans le dossier Jacques Delisle, justement après le récit de culpabilité de M. Delisle.
Sa responsabilité, à tout le moins en partie, dans la mort de sa femme.
Alors, dans l'histoire des erreurs judiciaires au Canada, ça, en soi, c'est sans précédent que quelqu'un qui se prétendait victime d'une erreur judiciaire plaide coupable.
C'est là le bas blesse, c'est que pendant 15 ans, il a dit « je suis innocent » pour finalement plaider coupable. Mm. Et là, M. Michel avait expliqué « écoutez, là, on n'est pas retourné dans un autre procès parce que ça aurait été invraisemblable.
Oui. » Il y avait une question d'une saine administration de la justice. Là, Jacques Delisle était rendu à 89 ans. On voyait qu'il était affaibli, difficulté de se déplacer. Il y avait des soucis d'audition aussi. Est-ce qu'on aurait vraiment pu ramener tous les témoins de ce procès-là? Il y en avait qui étaient partis à la retraite aussi. Est-ce qu'on aurait vraiment pu raisonnablement croire qu'il y aurait un second procès là-dedans? Donc, c'est clos pour une saine administration de la justice. Je comprends que tout le monde est satisfait. Mais dans un procès, puis la justice, c'est aussi une recherche de vérité.
Oui.
Et là-dessus, bien... on n'a peut-être pas réussi à trouver la vraie vérité là-dedans.
Parce qu'il est décédé à l'été 2024, à 89 ans. L'histoire est encore difficile à avaler pour bien des gens, un peu comme la couronne demandait les faits. Est-ce que tu crois que l'affaire est bouclée?
Mais l'affaire, elle est juridiquement bouclée. Ça, c'est certain, là, dans le sens qu'il y a eu un plaidoyer de culpabilité, il y a une peine qui a été prononcée, M. Delisle est décédé, c'est terminé. Maintenant, dans la préface du livre, parce qu'avec la série documentaire, il y a un livre aussi qui est sorti cette semaine que j'ai réédité et réécrit là, pour avoir vraiment l'ensemble de la saga.
Oui, parce que là, vous êtes tombé sur des extraits d'interrogatoires, puis d'ailleurs, on écoutera un extrait par la suite, là, qui fait en sorte que... Il y a du nouveau à raconter.
Il y a du nouveau à raconter. On a aussi sur l'interrogatoire de Jacques Delisle en 2010 qui n'avait jamais été rendu public et dans lequel M. Delisle parle beaucoup. Mm-hmm. Je voulais reprendre...
Est-ce que l'affaire est bouclée juridiquement?
Dans la préface du livre est signée par le juge Claude C. Gagnon. Le juge Gagnon, c'est lui qui était juge au procès en 2012. Et c'est lui qui a joué le rôle de facilitateur, de conciliateur en 2024 pour amener les parties à s'entendre sur un plaidoyer de culpabilité et terminer le dossier. Et dans sa préface, le juge Gagnon écrit « Les gens qui savent ce qui s'est passé peuvent plus parler aujourd'hui. Hein, ils sont décédés, Jacques Delisle est décédé, Nicole Rainville est décédée. Mais peut-être qu'il y a des gens, quelque part, là, qui savent quelque chose, mais qui ont fait le choix de ne pas parler. Peut-être que non aussi. Là. Peut-être que tout a été dit, tout a été écrit.
Mais on ne le sait pas.
On le sait pas. Donc, ces ondes d'ombre-là subsistent un peu dans cette réalité-là qui persiste.
Crois-tu qu'il pourrait avoir ses enfants qui connaissent la vérité? Parce que je me souviens, quand il était reconnu coupable, là, son fils criait dans le corridor du palais de justice « Papa, je t'aime ».
Mais par la suite, ça a comme changé un peu de discours aussi. Je pense qu'il était mêlé. Quelle histoire pour les enfants?
Je peux pas m'avancer là-dessus, mais chose certaine, j'ai énormément d'empathie pour les enfants là, qui, un peu comme la maîtresse, en fait, là, ont été vraiment catapultés dans cette affaire-là. Dès les débuts, les enfants se sont vraiment ralliés derrière leur père. Je pense foncièrement là, qu'ils sont convaincus que leur père n'a pas commis le meurtre de leur mère. Là, ça, on l'a senti dès le début. Maintenant, est-ce qu'ils savent quelque chose? Là, je veux dire, je m'avancerai pas jusque-là.
On écoute justement un des cinq extraits là, d'interrogatoire qui se retrouvait justement sur le site web du Journal de Québec. C'est un extrait qui est court, mais qui exprime, où Jacques Delisle exprime qu'il est sans remords.
On peut l'éliminer, là. Fait que la petite affaire qui manque, c'est juste l'aspect remords. Si vraiment, vous me dites, vous êtes pas un sans-cœur, puis ce qui s'est passé ce matin-là, c'est vraiment une perte de contrôle. C'est momentané, c'est humain, ça arrive à tout le monde. Puis...
Il y a des remords. On a des remords quand on a commis quelque chose de pas correct, mais il n'y a pas de remords si on n'a rien à se reprocher.
Je pense que, moi, j'ai retenu, quand on a fait quelque chose de pas correct et qu'on n'a rien à se reprocher. Je pense que, finalement, en plaidant coupable, homicide involontaire, il a admis avoir aidé sa femme à se suicider. Je suis convaincu que dans sa tête, il n'a pas fait quelque chose de mal en faisant ça en raison de sa condition physique.
Bien, c'est un peu ce qu'il disait même en 2015. Là, Jacques Delisle a dit pendant longtemps qu'il n'avait pas commis de crime. Mm-hmm. Bon, maintenant, on pourrait prendre chaque bout de l'interrogatoire puis essayer de l'analyser à notre manière. Chose certaine, dans cet interrogatoire-là, Jacques Delisle dit qu'il n'a pas commis de meurtre, qu'il n'a rien à voir avec le décès de sa femme. Et on sait que ça, bien, rien à voir avec le décès de sa femme.
C'est
même
faux.
Lui, il va l'avouer que c'est mensonger plus tard.
C'est une phrase trop franche, trop directe et qui ne laisse pas vraiment place à l'interprétation. Rien à voir. Moi, je reste parmi celles qui n'auront jamais de réponse. Je pense que je me retrouve auprès de certains citoyens, citoyennes et acteurs, des gens qui regardent ça avec un œil à l'écart. Mais je vais toujours être déchirée entre un homme qui avait peut-être une maîtresse, qui voulait continuer de vivre sa vie, puis trouvait bon que sa femme était rendue malade à un point, et donc peut-être présumé meurtrier
là-dedans.
En guillemets,
sa femme était rendue un boulet. Là.
Ou encore un genre d'alliance entre les deux qui se disent « Ben oui, moi j'ai beaucoup de souffrance, je veux mettre fin à mes jours, comment est-ce que tu l'acceptes? » Est-ce qu'on... C'est un genre d'alliance amoureuse dans ce cas-ci. Donc peut-être qu'effectivement, le juge de liste n'a pas commis de meurtre là-dedans, a aidé sa femme à quitter ce monde de manière assez violente, mais quand même. Ou encore, ben tout simplement que c'est elle, selon l'histoire initiale, mais là maintenant avec certains aveux, c'est autre chose,
c'est
là, mais je n'aurai jamais de conclusion personnelle là-dedans.
Catherine Lamontagne, merci pour ce cours d'histoire 101 de l'affaire Jacques Delisle. 418-971-1021. C'est quoi vos souvenirs de cette affaire-là? Comment vous avez vécu le tout? Moi, je me souviens que j'ai suivi ça attentivement parce que c'était vraiment un procès qui sortait de l'ordinaire. Quand tu as d'autres bonnes histoires comme ça, tu viens nous voir?
Oui, avec grande joie.
Je vais te souhaiter une bonne soirée électorale dimanche.
Merci.
Tu couvres Lévis. Par la suite, des petites vacances bien méritées.
Des petites vacances.
Je vais te souhaiter des bonnes vacances. Tu le mérites grandement. Joyeuse Halloween avec tes enfants ce soir.
À vous aussi.
À l'appui.
Oui.
Let's go, on y va. On n'est pas frileux. On n'est pas comme à Montréal. Montréal, ils veulent changer ça de jour. Hey, wow, minute, on n'est pas de même, nous autres. Merci beaucoup, Catherine. Après la pause, table ronde, justement, parlant des élections municipales, Pascal, parce que Émilie Pelletier du Journal Le Soleil, la collègue de Catherine, Stéphanie Martin du Journal de Québec et Irénée Rutema, notre chroniqueur politique municipale, s'installent ici avec nous. Puis on fait le tour de cette campagne électorale-là. Bon, on va y aller de nos petites prédictions aussi pour le résultat du dimanche.
On est à la fin de cette campagne, mesdames et messieurs.
Et voilà, enfin, diront plusieurs.
Oh, beaucoup.
Vous êtes à l'émission Nageurs sur les ondes de Boulevard 102.1. Jusqu'à Boulevard 102.1.
Le midi. On en jase à Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
On en jase, votre émission du midi sur Boulevard 102.1. Il est présentement 13h06. Pour ceux qui veulent aller passer l'Halloween ce soir avec leurs enfants, ben ça va être de la pluie parfois forte, 20 à 30 mm de pluie. Mais là... Elle se dégage un peu, Pascal, c'est vrai.
Oui, puis même s'il pleut, s'il vous plaît, parapluie, tout ça, je vous jure, on est prêts à vous recevoir.
J'ai des bonbons à la tonne à la maison. Faut que j'y distribue, sinon je vais trop en manger puis je vais engraisser.
Bien, c'est une de mes journées préférées et je n'ai pas d'enfant, hein, rappelons-le. Donc, si vous pouvez passer à la maison, je vous donne des bonbons. Vite de même, ça semble louche, mais je vous jure que ça ne l'est pas.
Non.
Vendredi en plus, c'est fun.
Ça.
Demain, on dort, si jamais vous
mais
pouvez.
Ça.
Je sais qu'ils ont des activités puis tout ça, les enfants, mais quand même.
Ouais. Mon garçon travaille à 8h, va falloir que je lui fasse un lift.
Bon, que tu te lèves.
Mais après ça, écoute, il travaille toute la journée. Je pourrais peut-être faire une sieste dans l'après-midi. Pascal, on arrive à un moment charnière de cette campagne électorale, c'est-à-dire la fin, parce que c'est les élections municipales dimanche. Et pour parler d'élections municipales, on a invité des amis qui l'ont suivi pas à peu près la campagne électorale. Alors, Émilie Pelletier du Soleil qui est avec nous, journaliste en politique municipale. Comment ça va, Émilie?
Ça va bien, merci de nous recevoir.
Ça va bien, merci à vous d'être là. Et Stéphanie Martin, également journaliste pour le Journal de Québec qui est sur le beat de la politique municipale. Stéphanie, ça va bien?
Oui, ça va super bien, merci beaucoup de l'invitation.
Ça fait plaisir. Et on a Irénée Rutema qui est notre chroniqueur politique que vous entendez à chaque semaine, qui est présentement bien installé chez eux, puis on l'a par Zoom. Comment ça va, Irénée?
Ça va bien, merci. merci de l'invitation et salutations à tout le monde.
Ah, ça fait plaisir. Ça fait grandement plaisir. Écoutez, on est vraiment, mais vraiment très heureux de vous avoir pour cette table ronde fin de campagne municipale. On le rappelle en même temps que dimanche 2 novembre, à compter de 19h30, vous pourrez suivre les élections municipales sur Boulevard 102.1. On sera également diffusé au 99.5 Montréal, donc avec notre collègue Alex Laramé qui sera là, dans les différents rendez-vous là-bas à Montréal. Pascal CV qui s'est fait déjà deux amis avec Émilie et Stéphanie. Vous allez être à Bruno Marchand. On a Mathias qui va se promener entre Leadership Québec et Respect Citoyen. Antonine Farnel et Max Larouche seront en studio avec moi. Bref, une belle équipe. On va avoir du fun. On mange la pizza avant, Pascal, tu savais?
Ben, c'est un peu comme l'habitude là, aux élections. Ça, quand on travaille en équipe comme ça, il y a souvent une petite bière après, puis il y a souvent un petit lunch avant. Parce que ça reste une grosse soirée. On veut être vos yeux, vos oreilles, être là pour livrer finalement ce qui va se passer réellement ce soir-là.
Exactement. Je commence avec cette question-là pour vous, mesdames et messieurs. Bruno Marchand, dernier sondage qui est sorti, c'est vendredi dernier, commandé par Respect Citoyen. C'est Novo TV qui avait sorti l'information. Toujours 40% dans les intentions de vote pour Bruno Marchand, 20% pour Stéphane Lachance, 14% pour Sam Hamad. Selon vous, est-ce que Bruno Marchand a encore cette avance à ce moment-ci? Émilie, je t'écoute.
Difficile à dire parce que je pense que les derniers jours, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Il y a une espèce de sprint final qui s'est entamé. Il y a beaucoup de partis qui ont fait d'ultimes propositions. Mais quand même, j'estime que... selon la tendance qu'on a pu voir tout au long de la campagne électorale, le maire sortant a été constamment dans une montée dans les intentions de vote. Je vois pas à ce stade-ci pourquoi la tendance serait renversée. Non.
Stéphanie, analyse-tu la chose de la même façon?
Ben, oui, effectivement. Au municipal, les tendances sont généralement fortes et se maintiennent. Oui. C'est ce qu'on a vu lors des élections il y a 4 ans. On avait vu Bruno Marchand remonter de façon constante et coiffer son adversaire à la ligne d'arrivée. Donc, dans la dernière semaine ou les deux dernières semaines, je ne vois pas de gaffe majeure de sa campagne. Il a continué avec son plan de match. Donc, si la tendance se maintient, on devrait voir ce genre de chiffres à l'arrivée, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise.
Exactement. Irénée, comment tu analyses le tout de ton côté?
Je suis d'accord avec Stéphanie et Émilie. Donc, pour le moment, M. Marchand a eu une très, très belle campagne, presque pas d'accident, à part l'histoire de M. Weiser, là, qui a été réglée rapidement. Et comme je le dis en riant avec des amis, vu qu'il est en amour, il aurait pu aller à Milan ou à Venise et revenir dimanche, là. Alors donc, je pense que ça va bien pour lui.
Oui, ça va très bien. Irénée trouve que le maire, tu sais, rayonne, il est en amour.
Ben oui.
Il parle positivement, la vie est belle. Qu'est-ce que t'en penses, Pascal?
Ben c'est sûr qu'officiellement, il est beaucoup plus heureux qu'en début de campagne.
Ben, oui.
Il pensait que ça allait être plus agressif, plus difficile, c'est certain. T'sais, on ramenait des bonnes têtes de la politique avec des CV que certains peuvent contredire, mais qui existent quand même sur une trame sonore qui est crédible. Et officiellement, ils se sont tellement plantés entre eux. On connaît l'histoire là, de la campagne électorale, que ça a laissé beaucoup de place à Bruno Marchand pour pas trop faire de bruit, pas trop faire de frasques, puis les laisser finalement diminuer au sondage. Hier, on l'avait en entrevue. Moi, j'aimerais entendre nos collaborateurs là-dessus, Jeff, sur le fait qu'il dit « je ne veux pas prendre pour acquis ».
Oui, c'est vrai. Il dit qu'il veut rien prendre pour acquis. Je pense que c'est la bonne posture. Puis je vais commencer avec Irénée. C'est la bonne posture à avoir du côté de Bruno
Marchand. Mais est-ce qu'elle est honnête ou juste politique aussi?
Oui, il doit faire preuve d'humilité parce que quand il est sorti pour demander une majorité, il y a des gens qui ont senti qu'il était peut-être un peu arrogant. Alors donc, il doit faire preuve d'humilité parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Et donc, ça serait ça ma réflexion.
C'est un positionnement qu'il a pris hein, sur le positivisme depuis quelque temps.
Oui.
Là. On voit vraiment qu'il a voulu se démarquer des frasques, justement, de ses adversaires, leurs affrontements internes, et de se présenter comme étant la vision d'avenir et aussi le point de vue positif de la chose. Avancer dans le positivisme versus les freins, le retour en arrière et le négativisme. Il l'a encore répété aujourd'hui. Puis c'est vrai qu'à chaque sondage, il a toujours dit « je ne tiens rien pour acquis ».
Est-ce une stratégie ou est-ce sincère? Point d'interrogation.
T'en penses quoi, Émilie?
Bien, difficile à dire, hein, parce qu'effectivement, comme Irénée le dit, lorsqu'il est sorti pour en appeler à une majorité, ça a été critiqué de la part de ses adversaires. Ça a été vu comme peut-être un excès de confiance et tout. Pour ce qui est du reste, je pense que ça peut lui servir d'agir de la manière dont il agit présentement. Comme Stéphanie dit, il a tout le loisir d'être positif puis de laisser les autres s'entre-déchirer entre eux. Je ne crois pas que ce soit qu'il ait besoin, finalement, d'en faire plus. Et selon ce qu'il a dit encore ce matin lorsqu'il dressait le bilan de sa campagne électorale, il dit « Les gens sur le terrain nous disent qu'ils veulent du positif, que c'est une vision, c'est une approche qui leur plaît davantage que, justement, les déchirures, les chicanes, tout ça. » Donc, je pense que à travers tout ça, il ne sent pas le besoin d'en faire vraiment davantage.
Non, puis ça ne pogne pas beaucoup au Québec. On n'a qu'à regarder avec le Parti conservateur du Canada, cette fameuse politique-là chicane. Mm-hmm. C'est pas quelque chose qui nous attire.
Mais rappelons-nous qu'en fin de mandat pour Bruno Marchand, il y avait quand même des gens qui lui reprochaient le fait d'être un petit peu aigri, d'être un peu ferme et de ne pas répondre à toutes les questions, d'être dans une politique de justification et non d'explication ou d'ouverture face à certaines politiques que lui faisait. Il y en a qui se demandent si le naturel ne va pas revenir au galop si jamais il est réélu.
Mais en campagne électorale, il y en a qui ont fait pire que lui. Donc, je pense que ça a pu lui servir,
Parlant...
Je veux dire, il y a des médias qui ont été exclus de certaines conférences de presse.
C'est ça. Parlant de pire, je pense que l'accident de voiture, on dit toujours qu'il se passe à un événement, à un moment donné, quelqu'un frappe le mur en campagne électorale et ça dégringole. Mais c'est arrivé entre deux candidats à la mairie. On écoute un extrait.
Je vous annonce que ce matin, nous avons déposé une plainte officielle au DGEQ de Québec contre Leadership Québec, contre M. Sam Hamad et contre M. Benoît Savard, qui est un organisateur ou un collaborateur de Leadership Québec, qui m'a été présenté lors de la fameuse discussion comme étant un représentant du parti. C'est pas acceptable que M. Hamad se promène dans tous les bulletins de nouvelles prime time à grande écoute pour diffuser des mensonges et qu'il n'y ait pas aucune répercussion.
Stéphanie, quand on regarde ça, Bruno Marchand est à 29 % des intentions de vote à ce moment-là. Coltaillage entre Respect citoyen et Leadership Québec et boum, 3 jours plus tard, sondage 40 % Bruno Marchand. Si Bruno Marchand, majorité au conseil de ville, va falloir penser à cette chicane-là.
Ça a cristallisé les choses, assurément. Il y avait un potentiel d'alliance qui a complètement avorté, ce qui fait en sorte que les déchirements, la division du vote qu'on voyait venir dès le début, s'est cristallisé à ce moment-là et ça a été comme un point de non-retour à ce moment-là pour toute alliance, toute possibilité que ces deux parties-là en viennent à une entente. Donc, à partir du moment où les deux adversaires principaux vont continuer de se diviser les votes et puis démontrent sur la place publique un affrontement aussi grave parce que M. Hamad est revenu par la suite en lui aussi disant qu'il va prendre à témoin le directeur général des élections dans cette affaire-là. Donc, c'est un point de non-retour à soi-même.
En plein ça. Puis quand tu dis que ça a cristallisé, tu as tellement raison, parce que depuis ce temps-là, dans les sondages, Stéphane Lachance est bloqué à 20 % puis sa maman est bloquée à 14. Fait que les partisans d'Hamad sont restés là, les partisans de Lachance sont restés là, puis pendant ce temps-là, les indécis ont fait quoi? Ils ont dit, ben, on va aller pour Bruno Marchand, finalement. Les enfants chicaneront ensemble.
Puis même ceux qui voulaient voter Hamad ou Lachance, ben, en fait, entre eux, ça s'auto-grugeait certains votes là, selon l'attitude du chef des partis.
Irénée, c'est vraiment le point de non-retour ou le point, je dirais, de lancement de Bruno Marchand. Puis hier, en entrevue avec nous, il a été très honnête pour dire « Oh oui, ça m'a aidé, là, leur chicane. »
Non, écoutez, c'était un moment vraiment étrange. Et donc, les deux partis, les deux chefs, donc M. Marchand, pas M. Marchand, mais M. Hamad et M. Lachance ont manqué vraiment de jugement. Ce que je déplore comme chroniqueur politique, mais surtout comme citoyen, c'est que cet événement-là a duré une semaine. Donc, ils ont kidnappé la campagne des maîtres de citoyens pendant une semaine.
Mais ils ne l'ont pas kidnappé de façon positive pour eux autres.
Oui, donc, mais M. Marchand était content parce que pour lui, ça a été encore très facile de voir ses deux adversaires principaux sont chicanés, sont querellés et portaient plainte au directeur général des élections, M. Ahmad Lafé, mais M. Lachance l'a fait aussi. Donc, c'était vraiment déplorable.
Émilie, ça en est suivi après ça certaines informations qui sont sorties sur Stéphane Lachance, dont tu as fait partie justement. Les fameux tickets non payés, les loyers non payés, il y avait eu les taxes non payées au début. Puis là, ben Stéphane Lachance s'est mis à faire du Bruno Marchand qui choix Radio X, c'est-à-dire à choisir ses médias. Et là, on ne le voit pas dans cette dernière semaine de campagne-là. T'en penses quoi de cette stratégie-là? Puis après ça, je vais entendre tes collègues aussi là-dessus.
Bien, nous, c'est sûr qu'on a fait partie des médias qui ont été exclus, oui. Notamment aux côtés de Radio-Canada. Je sais que le Journal de Québec n'avait pas été convié à une certaine conférence de presse au lendemain, finalement, de la parution. Bien, le jour même, finalement, le matin même de la parution là, de ce texte-là dans Le Soleil qui mentionnait le dossier de conduite de M. Lachance. Moi, en toute honnêteté, cette journée-là, j'ai appelé l'équipe et j'ai mentionné que je pensais pas que c'était une stratégie qui pouvait servir, notamment l'intérêt public. En tant que journaliste, on est supposé défendre. Son absence dans la dernière semaine, en fait, il a quand même convoqué lundi hein, pour présenter son plan de mobilité. Bien sûr, lui n'est pas demeuré longtemps sur place. Il a évoqué qu'il avait des rencontres avec des commerçants, bon, etc. Après ça, à lui de le justifier, mais je l'interprète par cette série, justement, de mauvaises nouvelles qui lui sont un peu tombé dessus et où j'ai l'impression qu'il y avait de la misère à se dépêtrer à travers tout ça, à fournir des explications qui étaient dignes de ce nom et qu'en ce sens-là, je pense qu'il a jugé, lui et son équipe, que son absence pouvait davantage leur être bénéfique que d'essayer d'alimenter finalement le narratif.
Mais Stéphanie, est-ce qu'on peut vraiment aspirer à la mairie s'il faut se cacher dans la dernière semaine?
Bien, c'est une chose qu'il a beaucoup affirmé à l'effet qu'il serait un élu transparent. On peut questionner là, cette façon de faire. Il a visiblement choisi de se replier vers sa base. Je le voyais hier dans un rassemblement partisan où il décriait le traitement que les médias lui accordent. Donc, c'est clairement un repli vers la base en espérant que ça ne fasse pas trop de vagues. Là. Puis effectivement, là, pour éviter de répondre aux éléments qui sont
moins... D'ailleurs, Stéphane Lachance avait été invité sur nos ondes ce matin. Il a décliné l'invitation, mais il était à Choix Radio X. Donc, il était avec sa base.
Bien, puis j'ai l'impression que le fait de ne pas en parler, ça lui donne peut-être l'impression aussi qu'il ne l'alimente pas et si lui ne répond pas de ça, bien à un moment donné, une nouvelle négative à son sujet finit par mourir d'elle-même.
Il y a des gens qui vont devoir travailler ensemble pareil dans les prochaines années ici à Québec, à la mairie. Donc, si la tendance se maintient, Bruno Marchand sera réélu, tout peut changer. Dans l'opposition, on retrouvera Stéphane Lachance. Est-ce qu'il va être capable de remonter de cette campagne-là dans le visage public de ceux qui boycottent aussi actuellement pour essayer d'être une opposition forte, une opposition digne de ce nom-là? Parce qu'on s'attend à en avoir une aussi à Québec. Le mandat de Bruno Marchand, le dernier, n'a pas été de tout repos. Il nous faut un chien de garde aussi du côté de la mairie. Que ça se passe bien. Comment vous entrevoyez la situation à Québec, les trois collaborateurs en fait, pour la suite des choses en termes de politique municipale?
Irène, on commencera avec toi.
Oui, alors donc, avant, je voulais revenir sur, je pense que c'est Stéphanie qui parlait de la stratégie de l'évitement. Et ça, je mets ça sur la faute de M. Lachance et son inexpérience politique. Avant, c'était un activiste anti-tramway. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, quand il a commencé sa campagne, il était en colère contre les médias parce que les médias ne suivaient pas sa campagne. Après ça, il a une semaine presque sans faute. Il y avait beaucoup de médias qui couvraient sa campagne. Par la suite, quand il a eu l'attention des médias, et je pense qu'il croyait que les médias, c'était les porte-parole de Respect Citoyen. Alors, en le questionnant, il s'est dit, mais ça n'a aucun sens. Il s'est replié. Et je le comprends parce que donc, je pense qu'il a beaucoup de squelettes dans son placard qui ne veut pas que les gens retrouvent...
Irénée, je saute à pieds joints là-dessus sur les squelettes dans le placard parce que j'avais une discussion avec plusieurs personnes ici hier dans les bureaux très animées positivement là, où il y a des gens qui disent « Ben là, à sortir tout ce qu'on sort sur Stéphane Lachance, ça va faire en sorte qu'il n'y aura plus personne qui va se présenter aux élections. » Moi, je suis d'avis contraire. Je suis à me dire « Ben, si t'es vraiment une candidature crédible, t'as pas ces squelettes-là dans ton placard. Tu te situes où, toi? »
Mais moi, je trouve que... Donc, si tu es, tu souhaites te présenter en politique, je pense qu'il faut que tu aies une vie relativement exemplaire parce que si tu te lances en politique, c'est sûr qu'on va fouiller dans ton passé. Cela dit, c'est des choses qu'on va devoir étudier parce que vous voyez, M. Alex Boisselot, qui s'est présenté au Parti québécois, il avait des squelettes, il a été transparent, il n'a rien nié et il a été réélu.
C'est la transparence, Irénée. C'est là la différence. C'est la transparence et c'est là que, pour moi, tu es une candidature crédible quand tu es transparent. Tu perds énormément de crédibilité quand tu critiques les médias qui font leur travail.
Exactement. C'est ce que je pense aussi. Et vous vous rappelez, on avait eu Boisclair 0.10 qui s'est présenté au Parti québécois. Il avait beaucoup de squelettes parce que il avait consommé de la cocaïne quand il était ministre. Mais les gens du Parti québécois ont décidé de lui donner un pardon. Il a été élu à la tête du Parti québécois. Alors, donc, je pense que d'ici quelques semaines, on va devoir analyser cette campagne-là et les squelettes qui sont sortis des placards de différents candidats.
Je suis d'accord, de mon côté, avec la transparence, oui. Mais surtout l'imputabilité, je pense. Et je pense que c'est dans
c'est
ce
un
cas-ci.
Bon point.
En fait, je ne pense pas que M. Lachance se serait présenté en disant « Écoutez, j'ai eu des arriérages dans l'acquittement de mes comptes de taxes municipaux du côté de Lévis. » Ça, ça aurait été très transparent, mais ça aurait été quand même très étonnant. J'ai jamais vu un candidat qui aurait fait ça. C'est pas le genre de choses qu'on crie sur tous les toits. Par contre, une fois que ça sort, encore faut-il être capable d'en prendre la responsabilité. Et dans le cas qui nous occupe, c'est... Il a été quand même rapide, le chef de Respect citoyen, à toujours remettre la faute. La taxe municipale, c'est la faute d'une adjointe. Le dossier de conduite, moi, c'était pas...
Mais je fais beaucoup de routes.
Oui, j'ai pas payé. J'étais en retard, mais c'était seulement sur certains. Il y a des paiements. Bon.
Le loyer, c'est à cause de la COVID.
Il y avait toujours des raisons. Et donc, je pense qu'en tant qu'aspirant à la mairie, je pense qu'on est en droit de s'attendre aussi à des candidats qui sont imputables.
Stéphanie, je te passe le relais pour en même temps
oui,
sur la question de Pascal. Exactement, qui mentionnait, bon, au niveau de chef de l'opposition, peut-être je rajouterai un élément à la question de Pascal. Est-ce que Stéphane Lachance s'est vraiment positionné en chef d'opposition crédible? Il va-tu être crédible s'il est le chef de l'opposition?
Ouais. Parce que si, bon, disons qu'on prend les choses comme elles sont présentées dans les derniers sondages. Bon, on a dit plusieurs fois, ça peut changer, mais disons qu'on y va comme ça. La course intéressante, ce sera justement la course au deuxième. Et donc, qui sera le chef de l'opposition? Sauf que M. Hamad n'a pas pris de colistier. Donc, lui, c'est maire ou rien. M. Lachance a pris un colistier, lui, dans Val-Bélair. Alors, pour qu'il puisse siéger s'il est défait à la mairie, son colistier doit être élu dans Val-Bélair. Et là, d'où l'importance de la course à Val-Bélair, parce que ça peut faire entrer un chef au sein du conseil municipal. Donc, en principe, si le colistier de M. Lachance n'accède pas à son poste de conseiller, il ne pourra pas donner son siège à M. Lachance. Donc, il y a une possibilité que M. Lachance ne puisse pas siéger au conseil, de toute façon. Donc, il n'y a rien qui empêche d'avoir un chef extérieur au conseil, ça s'est déjà vu. Mais alors là, l'opposition se dessine dans les districts. Et, ça va devenir intéressant, les
en
courses.
Effet. T'as entièrement raison. Avant de passer à vos prédictions pour dimanche, on écoute Bruno Marchand par rapport au fameux tramway.
Pas eu de référendum, mais il y a une consultation qui s'appelle une élection. Là. À la dernière élection en 2021, il y avait 5 partis, 4 partis pro-tramway qui ont ramassé la majorité des votes. Les gens, s'ils avaient voté pour Québec 21, les gens de Québec 21 proposaient de ne pas faire de tramway et ils ont eu une minorité de votes. Alors, c'est une forme de consultation. Oubliez pas là, que faire un référendum, ceux qui disent qu'il n'y a pas eu de référendum, s'ils perdaient le référendum, ils diraient que ça en prendrait un deuxième. Ils diraient que ça n'a pas été la bonne question. Ils diraient qu'il n'y avait pas toutes les bonnes informations. Ça ne finit jamais.
Ça ne finit jamais. Ça finit-tu le 2 novembre si Bruno Marchand a la majorité?
Ben, tu vois, c'est exactement ça que je m'étais préparée à répondre. Par expérience, c'est jamais vraiment clos, ce dossier-là.
Non, c'est ça.
Les adversaires du projet vont toujours dire « on n'a pas été consulté. On n'a pas été consulté de la bonne façon. C'est pas la bonne question qui a été posée. Ça a été dans une élection, mais telle personne ne s'était pas prononcée de la bonne façon. » Bref, les adversaires seront toujours des adversaires. Moi, ce que je veux qu'on note, puis ça a peut-être un peu passé sous le radar cette semaine, mais il semble que les trois principaux partis actuellement dans la course
proposent tous un mode de transport lourd.
Et oui.
Je m'explique, cette semaine, le parti de M. Lachance, par le biais d'un de ses candidats, a exprimé que si leur modèle qu'ils veulent implanter démontre qu'il faut un modèle de transport lourd, ils iront de l'avant. Donc, M. Lachance a passé des semaines et des semaines à dire que pour lui, il n'y en aura pas, contrairement à ses adversaires, alors que là, cette semaine, la donne a un peu changé.
Oui, puis il l'avait dit, il y a deux semaines, sur nos zones aussi, quand je lui avais dit, ouais, mais là, on va arriver à 1 million de personnes. Vous pensez vraiment gérer ça avec des autobus? Et sa réponse avait été de dire, ouais, mais nous, la différence, c'est qu'on va consulter les gens. Mais c'est parce qu'il va être trop tard.
Donc, ce qu'on peut en déduire, c'est que tout le monde, là, les principaux... en fait, tous les partis maintenant sont en faveur d'un mode de transport lourd, ce qui est un débat qui est infini à Québec. Bon, maintenant, c'est le mode qui peut varier selon les partis, mais on s'entend tous, on dirait, politiquement, là-dessus.
En effet. Émilie, c'est-tu fini, là, le tramway après le 2 novembre?
Moi, je suis d'accord que c'est... Et c'est pas fini, ce n'est qu'un début, là. Le vrai soleil, on l'a pas encore vu,
pourquoi
mais franchement...
Pourquoi vous me découragez de même, là?
Non, mais...
J'ai le goût d'avoir des discussions sur d'autres idées, sur le développement de la ville de Québec. Pourquoi vous me découragez comme ça?
Moi, je pense que tant et aussi longtemps que le tramway ne roulera pas dans les rues, on en entendra sans cesse parler et... Pour prouver ça, le maire sortant l'évoque souvent. Hein. Dans d'autres villes, c'est également le même scénario qui s'est présenté à toutes les fois. Il dit que ce genre de projet majeur et structurant de transport, lorsqu'ils ne sont pas en service, font les frais d'une base d'opposition très vocale, très présente, parce que avant que le moyen de transport entre en service, on ne connaît que les inconvénients de ces projets-là.
Les travaux,
les chantiers, l'abattage d'armes nécessaires, les
expropriations.
Exact. Donc, mais à un moment donné, selon l'expérience de d'autres villes ailleurs dans le monde, c'est que lorsque les gens commencent à l'expérimenter, ils peuvent l'essayer, il semble que finalement la vague s'inverse et il y a davantage de gens qui y adhèrent. Donc, est-ce qu'il va falloir attendre que le tramway roule dans les rues pour cesser d'en entendre parler?
Ce mandat-là s'annonce difficile parce que les 4 prochaines années, on sera dans la construction.
Ça va être les travaux.
Oui,
ça risque de faire mal à Bruno Marchand.
En 2033.
En effet, alors qu'il va devoir aller en campagne électorale avec les travaux du tramway. Irénée, je t'ai vu faire oui, donc je considère que tu es d'accord avec tes deux collègues. Alors, je te lance sur la dernière question de cette belle table ronde et merci beaucoup en passant d'y participer. Bruno Marchand, majoritaire ou non le 2 novembre?
Bruno Marchand, je pense qu'il gagne la mairie, ça c'est certain. Est-ce qu'il va gagner une majorité? Je ne peux pas me risquer. J'ai parlé aux gens dans son équipe qui ne veulent pas répondre à la question, qui me disent au moment, aujourd'hui, on ne va pas prédire. Cela dit, il y a 2 semaines, j'avais parlé avec quelqu'un qui est proche de Marchand. Donc, on s'était rencontrés avant l'élection au mois d'avril. La personne m'avait indiqué qu'il s'en allait vers une victoire à la mairie, mais minoritaire. J'ai revu la même personne à la mi-mandat qui me disait que peut-être ils entrevoyaient une majorité. Alors, je ne peux pas répondre à la question, sauf que M. Bruno Marchand est notre prochain maire. Là. J'espère que c'est ce que je crois, là, vu les sondages, vu le contexte politique dans lequel nous sommes.
Moi, je me mouille. Je pense qu'il y a assez fait de gains dans les arrondissements pour être majoritaire. Donc, c'est ma prédiction, Stéphanie?
Moi, je ne fais jamais de prédiction.
Non!
Au bureau, à chaque élection, on a des poules. Puis
tu t'embarques pas dans les poules?
Non, je ne sais pas. C'est une espèce de superstition,
c'est correct.
J'ose pas me prononcer. Ouais. J'aime mieux observer le résultat.
Mais je pense aussi que l'histoire de 2021 nous a appris que c'était peut-être hasardeux de faire des prédictions. Tout peut revirer. Hein. Il y a eu le vote par anticipation, il y a le vote le jour du scrutin. Donc, ça peut changer bien des choses. Mais c'est sûr que, dans les derniers sondages, il y a quand même des sondeurs qui se sont avancés à dire que M. Marchand se dirigeait vers une réélection. Donc, un peu comme le pense Irénée. Par ailleurs, est-ce qu'il y a quand même... C'est à peu près moitié-moitié hein, pour les gens qui était satisfait versus insatisfait de son travail. Donc, il faudra voir comment ça va ressortir. Est-ce que les gens vont préférer avoir des espèces de chiens de garde, justement, dans les districts, dire, je souhaite que M. Marchand soit toujours notre maire, mais on souhaite quand même qu'il y ait une opposition forte à l'hôtel de ville. Peut-être aussi, mais moi aussi, je vais me garder.
Pascal CV, le mot de la fin te revient.
Moi, tu le sais, je martèle une chose, par exemple. C'est que ce qu'on a connu comme point faible de Bruno Marchand ne revienne pas dans un second mandat. Souvent, quand campagne électorale, on voit des politiciens qui sont très conscients de leurs faiblesses, qui, pas sans excuses, mais les expliquent et tentent de les ajuster. Ensuite, ils sont réélus, puis le naturel revient au galop. Puis je ne veux pas pointer M. Marchand. Je pointe n'importe quel politicien qui se fait réélire et qu'en campagne électorale, il y a un changement de ton qui s'est produit. Mais Québec a besoin d'une opposition, c'est sûr. Québec a besoin d'un maire à l'écoute. Puis assurément qu'on va devoir tous et chacun se serrer les coudes. Donc, je pense que la suite, Jeff, sera d'autant plus intéressante que la campagne.
Je suis très d'accord.
Puis le mot de la fin, là, je pense que c'est qu'on reste très près de nos enjeux. Qu'on n'en décolle jamais et qu'on se désintéresse jamais. Même si certains de ces enjeux-là, soit le tramway,
ouais,
reviennent trop souvent dans notre vie.
Et sont redondants. Oui, on a une belle démocratie municipale là, à Québec, il n'y a pas de doute. Les gens de Montréal nous envient énormément. Émilie, Stéphanie, Irénée, merci beaucoup pour cette table ronde. C'était vraiment, vraiment intéressant de faire le tour de la campagne électorale
allez
avec vous.
Allez voter.
Oui, allez voter. 2 novembre, prenez votre destinée en main et allez voter. Parlant de Montréal, Pascal Cévé, c'est Lambert Drainville qui s'en vient en ondes avec nous. Il y a eu une entrevue exclusive avec Christian Dubé.
Et qu'on entend.
Ministre de la Santé.
Ça.
Qu'est-ce qu'il a dit, Christian Dubé, à Lambert Drainville? Ouais.
Je ne vais pas juste parler de l'humain.
Non.
Mais ça brasse, là.
Ça brasse énormément. C'est immédiatement après la pause. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1.
On en parle, on les vit et certainement on prend vie à travers cette campagne élection municipale-là parce que ben, justement ça fait partie de nos vies. Puis il faut savoir que c'est ce dimanche, hein, ce dimanche dans deux jours, le 2 novembre, qu'ont lieu les élections municipales. Ça veut dire qu'à Québec, il y a 124 lieux de vote sur le territoire. Il faut vous rendre au lieu de vote qui vous a été attribué pas loin de chez vous pour le faire. Puis les lieux de vote sont ouverts de 10h à 20h, sachez-le. 10h à 20h. Pour trouver votre lieu de vote, si vous cherchez le petit papier ou encore vous ne savez pas, c'est super simple. Consultez l'outil Info électeur. Ça, c'est sur le site web de la Ville de Québec. C'est facile, c'est rapide. Il suffit d'entrer votre code postal, votre numéro de porte et l'information va s'afficher. Donc, directement, je vous rappelle sur l'outil Info électeur sur le site de la Ville de Québec. On entre, code postal, numéro de porte, l'information s'affiche. Votre lieu de vote aussi est indiqué sur la carte de rappel que vous devriez avoir reçue à la maison. Il y a eu des petits bugs, il y a eu des gens qui ne l'avaient pas, mais cette carte-là est super utile pour voter. Elle n'est pas obligatoire, par exemple. Donc, le message va passer quand même si vous allez à votre lieu de vote avec votre carte d'identité. Tout va bien se passer. Pour voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale, bien sûr, et présenter cette pièce d'identité-là. Dans votre portefeuille, la carte d'assurance maladie, ça fonctionne. Votre permis de conduire, votre passeport, tout ça, c'est oui. Si vous ne savez pas encore pour qui voter ou encore pour confirmer votre choix, vous pouvez consulter la vitrine des candidats sur le site web de la Ville. Il y a plusieurs personnes candidates qui publient leurs photos, leurs principales idées là-dessus. C'est un bel outil. Tous les détails au ville.quebec.qc.ca/élection ou composez tout simplement le 311.
Horreur. Joyeux Halloween.
Pascal Cévé, on n'a pas pris congé durant l'Halloween, hein?
Oh non, on est
oh
là.
Que non,
on est sérieux, on n'est même pas déguisé, ah, on parle des vraies affaires.
On a vraiment, vraiment un gros show et ouais, on s'en va à l'instant même rejoindre notre collègue qu'on adore, Lambert Drainville. Lambert, comment vas-tu, mon ami?
Très bien, vous autres?
Ça va super bien. Lambert, merci infiniment parce que ce que je comprends, c'est que tu nous as sorti du contenu exclusif, c'est-à-dire d'une entrevue que tu as fait aujourd'hui avec Christian Dubé.
Ouais, comme je te racontais, c'était même pas une entrevue, c'était deux entrevues.
Ben
mon homme,
oui!
Parce que la première, on a fait au complet une heure d'entrevue, puis j'arrive, j'écoute le tape après. Pas de son.
Pas de son. Aïe,
écoute,
aïe, aïe.
J'ai le texte, j'ai dit, hey, monsieur Dubé, c'est la panique. S'il n'y a pas de son, ça n'a pas marché. Ils m'ont rappelé par FaceTime, puis on en a fait un autre. Fait qu'écoute, je remercie d'ailleurs de sa générosité, là, j'ai quand même été chanceux.
Hey, mais hein, qu'est-ce qu'il y avait de bon à nous dire, le ministre Dubé, par rapport à sa loi 2 matraque?
Ben, je vais laisser les gens écouter par d'eux-mêmes. J'ai quand même laissé des bons extraits que je t'ai envoyés. Mais la première question, c'était, écoute, à travers tout ce qu'on entend, Christian, est-ce que les médecins...
Et là, de voir des médecins qui veulent
quitter... Vont perdre de l'argent ou ils vont en gagner de l'argent avec ta loi? Et c'est la première clip.
Excellent. Allons-y immédiatement.
En Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Yukon, comme je disais, ça vous fait quoi, là, personnellement, de voir ça, là, des médecins qui veulent s'en aller?
Ça. J'aime pas ça, Lambert. J'aime pas ça. Est-ce que ça m'empêche des fois de dormir un petit peu la nuit? La réponse est oui. Mais je m'attendais que ça soit difficile. Mais je vais te donner un exemple. Regarde, on se parle, je sais pas il y a quelle heure, tantôt, il y a 10 minutes, je parlais au ministre de la Santé au Nouveau-Brunswick.
Ouais.
OK? Il y a quelques minutes, là.
Okay.
Puis j'ai dit, dites-moi un peu ce qui se passe, parce que, ben, il dit, c'est vrai. Il dit, on a eu une quarantaine d'appels qui passent par le Collège des médecins du Nouveau-Brunswick. Mais il dit, il n'y a personne qui a signé encore, là. Puis il n'y a pas personne qui a ouvert une clinique. Puis j'ai eu la même conversation avec l'Ontario hier.
OK. Puis justement, Doug Ford qui leur dit d'appeler, qu'est-ce que vous pensez de ça? Doug Ford qui dit, appelez-moi.
J'ai pas senti le même respect que j'ai senti ce matin. Le Nouveau-Brunswick, j'ai trouvé très respectueux. Ils comprennent notre enjeu. Ils disent, prenez le temps de leur expliquer ce que vous faites. Mais Doug est sur le téléphone. Mais c'est Doug. Tu parles de respect, là?
Ouais.
J'ai quand même pas eu le temps avec ce que tu viens de me poser comme question de l'expliquer. J'espère que les étudiants sont conscients maintenant à partir de ce matin, au moment où on se parle, on enregistre ça, que les fédérations ne les laissent pas rencontrer le gouvernement pour expliquer notre perspective.
C'est quoi les probabilités que vous reculiez? Allez-vous reculer? Zéro.
Non.
Impossible. Dans aucun monde.
Pas où on est rendu là. Je te dis pas, par exemple, qu'on fera pas des ajustements. On s'est donné une période. Si on peut avoir une discussion franche avec les deux fédérations sur des points aussi spécifiques, c'est sûr que je vais m'ajuster. C'est certain.
Lambert, les médecins vont-ils vouloir s'asseoir avec Christian Dubé parce que depuis sa loi spéciale, il dit toujours « je suis prêt à me rasseoir pour qu'on regarde ces fameuses primes dans le mode de rémunération », mais est-ce qu'il va vraiment le faire?
Ben c'est là que c'est un peu délicat. C'est là que c'est un peu délicat la loi spéciale parce qu'il est arrivé avec non seulement ce que le projet de loi 106 qui avait été déposé au printemps passé contenait, mais il a rajouté toutes ces affaires sur la surveillance, tout ça.
Sur la délation.
La délation, tout ça. J'ai une clip là-dessus plus tard. C'est là ce qu'on comprend de ce qu'ils viennent de dire, c'est que c'est les fédérations médicales qui disent à leurs médecins de ne pas aller aux rencontres d'informations que le gouvernement va donner. Moi, je te le dis depuis le début, j'ai un malaise avec ce genre d'attitude-là, des deux côtés, quand c'est question de museler l'autre côté, tout ça. Le gouvernement l'a un peu fait à travers sa loi spéciale. Là, les fédérations le font à travers leur message, disons, à leur médecin de ne pas participer aux rencontres. Est-ce que les gens peuvent juste se parler? Ben honnêtement, je pense que les deux sont un peu dans le tort à ce niveau-là. Présentement, les gens essaient juste d'avoir l'information, puis les médecins sont très, très inquiets. On le voit avec le nombre de médecins qui envisagent quitter le Québec. Le médecin, le ministre Dubé, dans la clip, disait que ça l'empêche quasiment de dormir. Il dit aussi qu'il n'est pas super content de l'attitude de Doug Ford aussi, là, qui littéralement...
Puis là, avec raison, là, on s'entend. Ouais. Ça n'a pas d'allure. Ouais. Doug Ford qui rappelle lui-même les médecins.
Y es-tu découragé, Lambert? Est-ce que tu sens qu'il est plus le porte-parole de M. Legault en ce moment ou un incompris ou encore, ben, réellement, il s'attendait à cette tempête-là?
Non, je pense que M. Legault puis M. Dubé sont pas mal au même endroit. Même M. Legault, selon moi, était le premier là, à vouloir aller aussi loin. Là. Plus loin même que M. Dubé. Ben honnêtement, présentement... Je pense qu'il garde la tête en dehors de l'eau, disons ça comme ça. C'est pas facile, une situation pour lui comme ça, là, du point de vue humain, là, c'est extrêmement difficile. Puis le fait de passer à la loi sous bâillon, ça fait en sorte qu'ils n'ont pas été capables de parler de qu'est-ce que le projet de loi venait changer, puis de faire des communications. Puis c'est ça qui est le gros enjeu. Le contenu du projet de loi, c'est une affaire. Mais qu'on soit là une semaine après l'adoption de la loi, puis qu'on ne sache pas encore exactement combien, quel pourcentage les médecins vont perdre, quelles primes vont sauter. Ce qu'il dit, c'est ben, la prochaine clip, c'est justement ouais, ça. Là,
c'est ça, qu'est-ce que les médecins vont perdre.
Oui, c'est ça.
Je pense que c'est relativement neutre.
Neutre.
Okay. Neutre. Alors donc, mais on s'entend que ouais. Quand je vais regarder ces 10 cas-là, là, les simulations qu'on va leur présenter la semaine prochaine, pour répondre clairement à ta question, il y en a, oui, qui vont peut-être baisser dans un plus ou moins 5%.
On parle un maximum, c'est ça que vous dites, un maximum de perte de salaire de 5% selon vous.
C'est peut-être 5, 7 dans certains cas, mais je te dirais là, plus ou moins 5% ne trompe pas.
Hey, on est dans une vraie guerre de chiffres, hein, parce que les médecins qui nous parlent de 45 à 50%. Puis Lambert, Pascal aussi, tu pourrais intervenir là-dessus. Ça aurait dû être fait dès le lundi, cette rencontre-là sur les primes. Il me semble que ça vient tard, là, ça a laissé place justement à toutes ces critiques-là.
Exact. Puis dans le meilleur des mondes, ça aurait été fait avant. Là. Oui. Mais là, ce que j'en comprends, le ministre qui m'a dit, c'est Lambert, on les a rencontrés. Là. Il y a eu des négociations avec les syndicats. Là. Il y en a eu des offres qui ont été déposées. Il y a eu le médiateur qui a été mis en place. On a discuté avec l'autre côté. Mais dès que le contenu du projet de loi 106 est arrivé sur la table, ben, les fédérations étaient comme, non, c'est non négociable. Si vous mettez ça dans le principe du projet de loi, dans la négo, on est out, on ne veut même pas en discuter, même pas du principe de prise en charge collective, d'indicateurs de performance. Puis là, ben, c'est ça qui arrive. Là. C'est que là, il y a comme une espèce de formule mathématique dans le projet de loi qui sert à calculer le revenu des médecins. Puis là, chaque médecin de son bord essaye de faire fonctionner cette espèce de formule mathématique-là super compliquée. Si le gouvernement avait été bien préparé, il y aurait eu un site web, il y aurait eu un outil pour les médecins de dire, ben, allez sur ce site web-là, rentrez vos heures, rentrez votre nombre de patients, vous allez avoir votre rémunération, puis il y aurait pu comparer. Là, c'est comme tout le monde, on est dans une guerre de chiffres, tout le monde lance des chiffres d'un bord puis de l'autre, puis on ne sait pas vraiment ce qu'il y en est. Mais selon ce que le ministre dit, il dit 5 à 7 %. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des médecins qui pourraient perdre plus, là, si tout va dépendre, encore une fois, des négociations sur les roches dans le soulier, comme ils les appellent. Mais il reste du travail à faire, ça, c'est sûr.
Certains prétendent que le projet de loi avait été écrit et final avant la dernière offre, puis que c'est peut-être pour ça qu'on ne l'avait pas expliqué avant. On dirait qu'on ne sait plus sur qui se fier, finalement, dans tout ça.
Lambert, moi, au travail, j'ai des boss qui me surveillent. Ils me surveillent tout le temps, Pascal. Ils sont tellement tannants, nos boss, ici. Vous comprendrez le sarcasme. Mais là, on va mettre un système de surveillance. Et as-tu expliqué ça, le ministre? Pourquoi? Comment ça va se faire?
Mais ma question, c'était pourquoi, en fait? Ma question, c'était pourquoi tu mets ça en... Étais-tu obligé d'aller là? Tu sais, changer la rémunération, fine. Changer les indicateurs de performance, fine. Le système de surveillance, on s'entend-tu, Jeff, comme je disais mercredi, t'as pas envie d'être le gars hein, qui est sur le plancher, qui est responsable de surveiller tes chums.
Pascal, c'est vrai, qu'est-ce que t'es en train de faire aujourd'hui, là, à cette heure-là? OK, t'es au micro, c'est correct.
La micro-gestion patronale est difficile dans la vie, imagine.
Ah ben non, imagine la micro-gestion du collègue. On écoute la clip, Lambert?
Yes, sir.
Les règlements qui ont été mis en place pour dire, ben, si vous parlez ou quoi que ce soit, là, toutes les lois qui... Tous les éléments qui semblent faire accro aux libertés individuelles.
Ouais, ouais c'est ça.
OK, bon. Premièrement, je veux juste que vous compreniez, tous ces articles-là ne sont pas en vigueur en ce moment. Nous, ce qu'on a fait, on a pris tous les articles habituels dans une loi spéciale. Je l'ai expliqué en chambre cette semaine. On a pris 60 lois spéciales qui ont été faites au Québec dans les dernières années. Le PQ, entre autres, avec Lucien Bouchard, faut-il le dire, c'est lui qui négocie de l'autre bord, on a pris sa loi. On a pris, on a fait ça. Alors, mais moi, j'ai dit, je ne les mettrai pas en vigueur tout de suite. Je vais être obligé de voir si la situation de couverture des patients se détériorait. On ne souhaite pas ça. Si elle se détériore, là, je vais le mettre en vigueur. Mais mon intention, c'est de ne pas aller là, Lambert.
Mais si jamais ça arrivait, qu'il y en avait beaucoup qui quittent, ça affecte les patients, tu pourrais imposer des pénalités, des amendes jusqu'à 20 000
Ben, c'est pas l'objectif du tout.
OK.
Politiquement, Lambert, ça a quand même fait mal là, de le mettre dans la loi spéciale. Là. C'est venu vraiment irriter les médecins.
Surtout sachant pas si on va pouvoir l'appliquer, là.
Oui.
Absolument. Puis ça frappe l'imaginaire, surtout, tu sais. Encore une fois, s'il y avait eu une stratégie de communication en amont qui était plus claire ou qui était prête à être lancée dès que le projet de loi était déposé, ben, on aurait peut-être mieux compris que c'est pas nécessairement l'intention du ministre de l'utiliser. En reste pas moins que ça demeure le spectre de ce levier-là, de cette possibilité que le ministre se donne de faire ça, qui plane au-dessus des médecins puis qui les inquiète. Au même titre que la menace de perdre une partie de leur salaire avec certaines primes qu'on sait pas trop ce qui va arriver avec. Mm-hmm. Fait que, tu sais, là, il dit qu'il l'utilisera pas. Voyons voir cette année pour la suite. Ça va être intéressant de voir là, avec les médecins qui quittent. Est-ce qu'à un moment donné, s'il y a vraiment beaucoup de médecins qui quittent, là, puis à un moment donné, là, ça finit par avoir un gros impact sur les patients, là. Il n'y aura peut-être pas le choix. Mais là, si les médecins sont déjà à Beau Boswell, c'est une position mauditement inconfortable entre toi et moi.
Le temps roule, Lambert. Est-ce que tu es capable de nous résumer ce que Christian Dubé avait à nous dire sur le départ de Lionel Carman? Parce que c'est clair que ça fait mal en regardant la face de François Legault hier durant la conférence de presse.
Ouais, ça fait très mal. Écoute, c'est un ami du premier ministre Legault. C'est un gars qui était là depuis le début. C'est un ministre qui est en poste depuis 2018 dans les mêmes dossiers. C'est un ministre qui a joué aux pompiers pendant 7 ans. Là. C'est pas des dossiers faciles. DPJ,
itinérance, DPJ. Ah non, c'est ça.
Fait que, tu sais, c'est un départ qui fait mal, puis c'est un premier gros départ, là, comme ça, en fonction. Bien, il y a eu Fitz, là, mais Fitz, c'était autre chose. Fait que, ce qu'il a dit, bien, il a dit que le ministre Carman prenait une décision pour sa famille, puis qu'il comprenait. Ce que j'en comprends en discutant avec lui, c'est que le ministre avait quand même proposé des changements à la loi, mais... Tu sais, M. Carman, c'est pas le genre de gars qui va mettre son poing sur la table et qui va déchirer sa chemise. Fait que je pense qu'il a fait des propositions. Je pense qu'il était dans une position très inconfortable en tant que médecin lui-même, avec sa femme comme médecin, avec sa fille comme médecin. Puis au final, tu sais, ça a été ça sa décision. Ça a été de se dire, je peux plus longer la clôture comme ça. Faut que je choisisse un bord. Je choisis ma famille. Puis je pense que sont un duo de ministres qui est ensemble depuis le début, là, quasiment, là, oui. M. Dubé et M. Carman ensemble. Ils travaillent beaucoup ensemble. C'est sûr que de voir un ami comme ça partir, c'est très difficile pour lui. Puis c'est sûr que, tu sais, ça pose la question. Lui, c'est un médecin. Lui, il a lu la loi. Lui, il a fait partie du processus qui l'a mis en place. Puis visiblement, il n'est pas d'accord avec ce qu'il y a là-dedans. Fait que si le seul médecin de ton gouvernement et pas d'accord avec le principe de ta loi et avec ce qu'elle change, on dirait que je me pose des questions sur la capacité de ce gouvernement-là de convaincre les autres médecins et de convaincre la population par après que c'est vraiment bon.
Excellent point, Lambert Drainville. On se reparle mercredi prochain pour tes excellentes chroniques.
Bien sûr, mon gars.
Hey, bon week-end, mon ami. Salut. Bonne élection municipale, Pascal Cévé.
Ben oui. Bonne élection municipale. Allez voter.
Yeah! Pascal Cévé, c'est déjà la fin pour nous. On se reparle dimanche pour notre spéciale élection municipale. En attendant, c'est le retour de Gravel qui s'en vient avec Denis Véraud et Audrey. Garage à Dan à compter de 18h. Rock and Chill samedi matin. Boulevard du Rock samedi après-midi avec Dan Caron dimanche avec Colosse. Puis le Rack à Matt dimanche.
Puis joyeux Halloween. Profitez-en. Oui. On est en mode Halloween jusqu'à dimanche. Revient en élection. Puis assurément, ce soir, les Jays à 20h jouent. On les encourage.
Ne manquez pas les Jays et la Série mondiale. Bon week-end à tous. On se reparle lundi prochain. Bye-bye.
Salut.